Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette restitution de la conférence citoyenne 5G et les usages numériques qu'elles impactent. Je rappelle qu'elle a débuté en décembre 2020 et sur le plateau pour en parler, eh bien, celle qui en est quasiment à l'initiative et qui en tout cas a animé avec moi cette première restitution, cette première ouverture sur la 5G, Caroline Zorn, bonjour.
Bonsoir Dan.
Très heureux de vous retrouver ici depuis décembre, ça nous avait manqué, hein, je le rappelle. Donc important, nous sommes tous ici avec vous. Je rappelle, Caroline Zorn, que vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la vie étudiante et de la métropole numérique et innovante. Vous serez avec nous tout au long de cette soirée. Lionel Leguet est également avec nous, responsable de l'aménagement numérique du territoire à l'Eurométropole. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Dan.
Très heureux de vous avoir avec nous. Merci. Nous allons apprendre plein de choses. À vos côtés, Bernard Christen, qui a animé les ateliers avec les habitantes et habitants de janvier 2021 et qui, de plus, a rédigé le cahier de préconisation. Bonsoir, Bernard Christen.
Bonsoir.
Heureux de vous avoir avec nous. Bien. Pierre Schweitzer, un citoyen très participatif et particulièrement pendant ces conférences et ces ateliers. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Très heureux de vous avoir avec nous. Et maintenant, un petit peu de jeunesse pour nous rappeler que la 5G, bien, tout ça c'est important et que c'est pour la génération également qui est en train de suivre. Nous avons avec nous Maïssa Bienfait, représentant le Conseil des jeunes. Bonsoir Maïssa.
Bonsoir.
14 ans et demi, presque 15 ans, et es-tu collégienne au lycée Fustel de Coulanges, oui. que vous allez représenter dignement ce soir.
Oui.
Bienvenue à toutes et à tous et bien évidemment, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis leurs écrans, les participantes et participants. N'hésitez pas à interagir, à nous poser des questions, à réagir directement sur la plateforme strasbourg.participer.eu. Vous avez un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez et nous y répondrons en direct. Pour démarrer, eh bien, je vous propose directement de rentrer dans le vif du sujet avec vous, Caroline Zorn. Le programme de ce soir s'inscrit, je le rappelle, dans la semaine du numérique responsable. C'est une première pour Strasbourg. Et vous pouvez peut-être nous expliquer les grandes lignes de cet événement et les moments forts qui peuvent intéresser eh bien, tous les citoyennes et citoyens de Strasbourg.
Oui, avec plaisir. Alors, le numérique est souvent synonyme de quelque chose de négatif pour l'environnement, qui va apporter des nuisances, qui va abîmer l'environnement. Et c'est vrai.
Voilà.
C'est-à-dire que voilà, hein, ça, il faut le
dire. Maintenant, c'est dit. Maintenant, on le sait.
Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'en passer, puisque ça peut avoir des vertus. On l'a vu notamment dans la crise sanitaire. Il y a un certain nombre de choses qu'on a pu faire parce que le numérique était au rendez-vous. Pour autant, il y a probablement des usages dont on aurait pu se passer, voire des usages qui sont peut-être nocifs, qui induisent des risques psychosociaux ou des renouvellements de téléphone qui relèvent plus de la pulsion de consommation que de la stricte nécessité. Donc la question, en fait, quand on parle de numérique responsable, c'est de savoir où est-ce qu'on place le curseur entre ce qui est souhaitable, ce qui est une bonne idée, une mauvaise idée, de quel point de vue, pour soi, pour les autres, pour l'environnement. Donc voilà, c'est d'apporter... L'ambition est d'apporter une information qui soit fiable, c'est la première des choses, de faire participer des experts, des citoyens, des gens qui sont investis sur ces questions de numérique responsable. Et cette première édition, puisqu'il y en aura d'autres, va permettre de mobiliser tout le territoire, puisqu'on veut vraiment que l'Eurométropole de Strasbourg soit un territoire où les personnes sachent réfléchir à ces nouvelles technologies, ces technologies qui sont déjà peut-être même parfois un peu anciennes, qui ne sont plus vraiment nouvelles, avant que l'on parle de progrès, puisque le progrès et l'arrivée de nouvelles technologies, ce n'est pas forcément synonyme, mais on y reviendra un peu plus tard.
On y reviendra. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Tout est une question finalement d'équilibre hein, et de bon usage, mais nous allons en reparler et surtout rentrer dans le vif du sujet. Et pour le vif du sujet, eh bien, nous sommes impatients de le découvrir. Ce sont les résultats de cette conférence citoyenne. Lionel Leguet, vous êtes responsable de l'aménagement numérique du territoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les étapes de cette conférence citoyenne? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que ça a débuté? Et puis finalement, comment est-ce que ça s'est organisé?
Oui, donc cette démarche de conférence citoyenne, de participation citoyenne a commencé, vous l'avez rappelé en introduction, fin d'année dernière, donc le 2 décembre 2020, dans ces mêmes locaux, à l'occasion d'une table ronde qui a réuni quelques experts du domaine, à la fois des personnes du corps médical, mais également des spécialistes des ondes. Et donc, ça a permis d'introduire le sujet et de lancer cette conférence citoyenne de manière officielle. Je rappelle que, vous pouvez le voir sur la présentation, le lien est toujours disponible et les vidéos sont toujours disponibles sur le site de Strasbourg, participer-strasbourg.eu. Ensuite, donc, au mois de janvier, s'est tenu 8 ateliers Donc il y avait 4 thématiques, mais en deux fois. Donc 8 ateliers qui ont été suivis par quelques dizaines de personnes et avec des thématiques différentes. Donc la première thématique, c'était donc la 5G et l'exposition aux ondes, comment la mesurer. Donc on est tous soumis à une exposition croissante aux ondes électromagnétiques et quel impact sur la santé. Donc on a beaucoup échangé sur ce sujet. L'atelier numéro 2, qui avait pour titre 5G, passage obligé pour une compétitivité technologique et économique, reprenait plutôt la manière incontournable, puisque incontournable parce qu'elle est là, cette technologie, comment on peut du coup l'utiliser par les acteurs économiques du territoire pour en profiter finalement. Et ensuite l'atelier numéro 3, donc qui avait pour titre 5G de l'Amiche au technolâtre, quel choix de société, donc quels sont les usages, quelles sont l'évolution de nos usages personnels pour avoir l'impact que ça peut avoir sur notre société actuelle. Et comment aspirer à avoir un usage particulier. Et enfin, le quatrième atelier qui s'appelait 5G et enjeux environnementaux, nouvelle consommation énergétique en lien avec ces nouvelles technologies et quel bilan énergétique, que ce soit au point de vue consommation électrique, mais également consommation de ressources naturelles pour construire les différents objets en lien avec ces technologies.
Merci beaucoup, Lionel Leguet. Ça fait un nombre d'ateliers, de thématiques, un brassage général qui devait être fort intéressant. Et justement, nous avons avec nous Bernard Christen. Et alors, surtout avant de parler de toutes ces étapes avec Bernard, il y a eu une soirée de restitution, Lionel Leguet.
Oui, absolument. Donc, il y a une première soirée de restitution qui s'est déroulée en mars dernier, où nous avons réuni exclusivement les participants à ces ateliers pour leur donner en exclusivité, on va dire.
En primeur,
voilà. Exactement. Le bilan, un peu le retour sur ces différents ateliers, leur avis sur la démarche également, et pour un peu, en quelque sorte, valider ce cahier de restitution que je vous présenterai.
Alors, comment est-ce qu'ils ont réagi, justement, les participants des ateliers?
Ça a été plutôt positif, bien sûr. Au regard de la consultation qu'on a fait, leur participation, de leur implication, effectivement, le rendu que Bernard Christen a fait était totalement, dans les grandes majorités, raccord avec les discussions qui se sont tenues pendant ces ateliers.
Bon, quelque part, c'est rassurant, mais nous allons vérifier ça, si vous le voulez bien, avec Bernard Christen. Bernard, vous avez animé les 8 ateliers sur les 4 thématiques évoquées juste à l'instant par Lionel. Tout cela en visioconférence, c'est déjà une performance en soi. L'usage, il a fallu le faire, mais en tout cas, vous avez relevé déjà ce défi, le contexte obligeant à cela. Comment est-ce que cela s'est passé?
Après coup, j'ai envie de répondre à très bien.
C'est le soulagement.
Avant et pendant, je dirais il y avait et des inquiétudes et qui a impliqué une grande concentration et une débauche d'énergie assez conséquente des équipes de l'Eurométropole, des partenaires, des personnes ressources qui nous ont accompagnés. Effectivement, comme on l'a dit, c'était sur un mois dense, sur un sujet complexe. Donc il y avait au départ un peu ce sentiment-là et cette attention-là. Effectivement, le sujet, la 5G, c'est un sujet, je dirais, tensionnel dans les débats, et le titre c'est 5G, usage numérique, donc il y avait deux faces, donc l'usage numérique c'est multidimensionnel, donc on avait à gérer à la fois cette dimension 5G avec toute cette à faire vivre ce débat-là sur le tensionnel de la 5G et la dimension riche des usages numériques. Donc le gros enjeu pour nous, c'est d'arriver à générer
Bernard,
une véritable...
Remontez la main sur votre micro, parce que ça coupe. Voilà,
comme ça,
c'est parfait.
Pardon.
Voilà.
Oui, arriver à une véritable intelligence collective. Puisque concerter, c'est pas seulement faire le tour des points de vue de chacun au départ, c'est d'arriver à travailler avec ce que chacun pense au départ pour générer une plus-value, une intelligence collective. Alors, c'est ça le désir de la concertation, si vous voulez.
C'est ça. Et sur une thématique comme ça, comme sur d'autres d'ailleurs, j'imagine que ça devait être fleuri en termes de diversité, d'où tout le talent que vous avez eu de rassembler tout ça.
C'est fleuri, il faut le faire vivre. Il faut faire vivre le bouquet, si je puis dire. Donc effectivement, il faut arriver à avoir les réflexes qui transcendent les a priori, la réflexion qui transcende les a priori. Donc ça, c'était... Ensuite, effectivement, il y avait la densité. Comme l'a dit Lionel à l'instant, 4 ateliers, 2 séances, 8 séances en un mois.
Oui,
c'est deux par semaine. L'énergie sociale disponible, à ses limites. Nous, en tant qu'intervenants, c'est notre job, je dirais. Un marathon, c'est un marathon. Mais les participants, c'est eux qu'il faut remercier puissamment dans cette affaire-là. Être mobilisé deux soirs par semaine, ça a l'air de rien.
À distance,
j'y vais y revenir, c'est puissant. Donc, effectivement, un grand bravo pour cet engagement-là. Quoi. Donc, et pour nous, c'était aussi une petite inquiétude pour voir s'il n'y avait pas de décrochage dans la participation à mesure qu'on avance. On n'a pas eu de décrochage et là aussi, je pense que le système a fonctionné. Effectivement, comme vous le dites, visioconférence, et c'est aussi arriver à la visioconférence entre professionnels qui se côtoient, qui travaillent ensemble tous les jours, c'est une chose. Oui. Faire travailler ensemble un public hétérogène sans habitude de travail commun, c'est effectivement... Et comme on dit, bien travailler, on dit ben, pas faire le tour de qu'est-ce que tu penses. C'est amener à chacun de la matière pour qu'il y ait une élévation de la réflexion collective.
Une vraie transformation. Juste pour que ceux qui, et celles qui nous écoutent se rendent compte, combien de personnes par atelier environ vous aviez...
En médian,
voilà.
Si vous voulez, entre 25 et 40, on va dire 30 participants effectifs qui dans la durée.
25 et 40 dans la durée, oui.
En inscription, c'est plus nombreux. Hein, toujours,
normal.
Entre le nombre d'inscrits et de participants, c'est 50%.
Oui. Hein,
mais on avait quand même un noyau dur qui a suivi toute la procédure de manière intense.
Il fallait quand même être accroché pour sentir ça, le faire à distance, tenir et puis faire émerger, comme vous l'avez dit, l'intelligence collective.
Je dirais, pour conclure un peu, là, il y avait une implication forte et studieuse et constructive des participants. Là aussi, je veux dire, chacun n'est pas simplement venu avec ce qu'il avait à dire au départ. Chacun a travaillé, a essayé de comprendre, a étudié, puisqu'on a fait des supports de présentation assez denses, je pense, et qui étaient diffusés, etc. Et les gens les ont lus, les ont travaillés, les ont questionnés et ont amené leur regard et leur éclairage. Donc, il y a eu un vrai engagement des participants et je pense que ça fait que le tout a donné quelque chose de fort.
Bon, déjà, merci pour... Vous voulez peut-être réagir, Caroline ?
Oui, je voulais réagir sur la question du calendrier et sur la question du travail qui a été fourni. Et Bernard a raison de le dire. C'est un travail colossal qui a été produit. Il y a une mobilisation des personnes tout du long sur ce noyau dur. Et sur la question du calendrier, ce que je voulais indiquer, c'est que lorsqu'à l'automne, il y a eu cette sortie du président de la République qui a indiqué qu'il y avait les Amish d'un côté et les progrès les partisans du progrès de l'autre, et qu'au même moment, les blocs de fréquence avaient été achetés par les opérateurs à coût de millions d'euros, rien n'empêchait le déploiement, en fait. Et le but n'était pas de l'accélérer ou de l'empêcher, le but était de se dire, il faut qu'on réfléchisse et il faut que, même si en l'occurrence, à Strasbourg, la maire n'a pas la possibilité d'interdire le déploiement des antennes ou même de les accélérer, la réalité c'est qu'il y avait d'autres leviers et donc on a vraiment on a voulu organiser cette conférence et on a dû le faire rapidement parce que lorsqu'on nous a dit au sommet de l'État il n'y a pas matière à discussion, c'est d'ici il faut absolument discuter. Voilà. C'est vrai que ça s'est fait de décembre à janvier et ça a été un vrai défi en fait de le faire, donc un grand merci à celles et ceux qui ont permis qu'on relève ce défi, voilà, et ce soir vous avez des artisans de ce défi, donc merci. Alors,
artisans de ce défi, vous avez réalisé et surtout rédigé ce fameux cahier de préconisations dans lequel, qui ont été émises par les habitantes et les habitants, les participants et participantes. Il nous sera dévoilé tout à l'heure par Lionel Leguet dans quelques instants. Ça a été un exercice complexe au-delà de tout ça, ou au contraire, il y a eu un relatif consensus avec les participants ?
Alors déjà, la concertation en soi n'a pas pour but d'arriver absolument au consensus.
Voilà, ça c'est...
La richesse et le débat des points de vue. Cela dit, donc on n'est pas une obsession, on n'a pas l'obsession de l'unanimité, mais en même temps, on est quand même arrivé, je pense, à une assez forte convergence. Une assez forte convergence avec, là aussi, ce qui me semblait important, on a réussi, quand je dis on, l'ensemble des participants, à faire vivre les deux dimensions de la conférence. La 5G, je pense que ce qui était lié à la 5G a pu trouver toute la richesse du travail qu'on pouvait attendre d'une conférence, mais en même temps, ça n'a pas étouffé la deuxième partie qui était les usages du numérique. Je pense que le cahier de préconisation, il montre bien qu'on a pu travailler sur l'ensemble du champ, Et donc le débat tensionnel sur la 5G, il a été abordé dans toute son amplitude, je pense, mais tout en gardant aussi les autres chapitres sous la table de travail. Voilà. Donc voilà ce que... Donc, pas nécessairement consensus, mais quand même forte convergence.
Forte convergence.
Et je dirais un compromis vers le haut.
C'est une forme de compromis.
Je laisserai les participants, M. Schweitzer, compléter tout à l'heure cela. Mais le point de vue qu'on a, nous, c'est cela. Et le cahier de préconisation, on l'a fait circuler entre les participants. Et il a été, en version de travail, il a fait 3 circuits, si vous voulez. Et à chaque fois, on a, je pense que la ponctuation, dernière page du cahier, fait un peu état du retour des participants le plus fidèlement possible. Je pense que c'est pour ça que j'essaie de traduire cela avec mes propos. Voilà.
Merci beaucoup Bernard Christen pour ces informations. Nous allons, j'ai envie de dire, checker, vérifier auprès d'un des participants. C'est justement Pierre Schweitzer. Vous avez participé à ces ateliers en tant que citoyen de manière très proactive. Vous étiez là. J'ai envie de vous demander, finalement, est-ce que c'est vrai tout ce qui s'est passé? Racontez-nous en tout cas votre version. Je ne mettrai pas en doute, je plaisante bien sûr. Comment vous l'avez vécu, vous, Pierre?
Dans des conditions déjà quand même assez particulières. La conférence citoyenne s'est déroulée au mois de janvier. On était tous confinés encore. Donc les Strasbourgeois qui ont participé à cette conférence étaient des personnes équipées d'un ordinateur à la maison, capables de cliquer sur Zoom, d'avoir une caméra. Ils avaient d'ailleurs pas tous une caméra. On se souvient d'avoir eu quelques participants par téléphone avec des procédures de connexion un peu acrobatiques. Donc il faut quand même se remettre dans ce contexte-là pour se dire qu'on sort presque d'un exploit. Parce que moi, j'ai personnellement trouvé qu'après la conférence inaugurale qui a permis de définir les 3 ou 4 angles d'analyse de la question, on a quand même eu 4 ateliers qui se sont tenus donc tous en visioconférence, mais de façon assez remarquable. Ce que j'ai trouvé très très intéressant dans cette conférence, qui pourrait sans doute servir de modèle pour les autres, parce que je pense qu'il y a d'autres conférences actuellement qui n'ont pas, peut-être pas cette richesse de délibération, on va dire. Ce qui était très remarquable, c'est le fait que chaque atelier ait été travaillé en 2 temps. Un temps où il y a eu beaucoup d'informations avec des supports de présentation technique très pédagogiques.
Accessible, donc
accessible avec des questionnements techniques, parce que on arrive là sans être des spécialistes de la question. Il y a eu un deuxième temps, un temps de respiration, je dirais, qui permet de recevoir les informations, peut-être parfois même de se mettre à la recherche d'informations complémentaires sur tel ou tel sujet qui intéresse, et de revenir avec des questionnements mieux ciblés et avec des propositions, parce que dans l'intervalle il y a eu ce temps de respiration, et je pense que ça c'est quelque chose qui a beaucoup aidé, je dirais, la bonne qualité de la tenue de la conférence.
Voilà, donc ça c'est déjà la mécanique qui permet ce temps de temporisation, finalement d'incubation nécessaire pour bien comprendre et s'approprier les sujets aussi.
Tout à fait. Et alors après il y a la question de la représentativité des gens qui étaient là.
Alors justement.
Qui sont équipés à la maison d'un ordinateur. Voilà, on peut imaginer que c'est pas le cas de tous les Strasbourgeois. On peut imaginer aussi dans le sens inverse que certains participants en ligne, alors qu'ils se seraient peut-être pas déplacés dans un lieu de conférence, donc ça facilite des choses aussi. Ça permet d'avoir des modes d'interaction, je trouve, et même de commentaires entre les participants très intéressants, parce qu'on peut intervenir dans le chat sans interrompre une conversation en cours. On peut documenter un sujet en passant un lien dans le chat. On peut faire un commentaire dans le chat sans perturber les échanges. Donc il y a quand même voilà, il faudra réfléchir, même quand on sera revenu en présentiel, peut-être, à considérer aussi ce que le numérique peut apporter pour enrichir la qualité d'un débat.
Ce qu'on appelle le digital, finalement, le physique et le digital mixés, ça donne encore... Tout oui, c'est le mot idoine, pour ça, c'est le digital qui permet justement ces contributions pour les publics qui sont distanciels. Voilà. On a plein de nouveaux mots depuis le confinement, c'est formidable, on en découvre comme ça tous les jours. Pierre Schweitzer, qu'est-ce que vous retenez? Quels sont les trois points que vous deviez retenir de ces moments, des actions, des choses que vous avez apprises, que vous souhaitez partager? Lesquelles seraient-ce?
Il y a eu de mon côté beaucoup d'informations.
Beaucoup plus certainement, même.
Beaucoup d'informations nouvelles. Vous disiez que j'étais très participant. C'est vrai que je suis engagé dans les dispositifs du pacte pour la démocratie qui a été un peu consolidé, qui a eu pour vocation de consolider un peu la participation citoyenne lors du précédent mandat et qui se poursuit aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans ces ateliers, il y a eu beaucoup d'informations nouvelles qui sont parfois des informations qui ne sont pas accessibles aux citoyens quand on va sur le site de l'Eurométropole, par exemple. Donc il y a eu beaucoup d'informations nouvelles de toute nature. Je ne sais pas si on peut non on ne va pas rentrer dans les détails,
mais vous pouvez en tout cas nous en livrer hein, je pense que nous
maintenant sommes... une de mes motivations, c'est que je étant habitant du centre-ville, il se trouve que j'ai au sous-sol de mon immeuble, dans ma cave, enfin dans les communs, une étrange armoire technique siglé d'un opérateur, où il y a un avertissement en façade qui dit « Attention, ne restez pas 3 mètres devant...
» C'est rassurant, ça.
« Ne restez pas longtemps 3 mètres devant, ne restez pas trop longtemps 1 mètre à côté, 10 mètres au-dessus. » C'est un immeuble en ossature bois, une vraie maison alsacienne, quoi. Et donc, c'est vrai que dans mes motivations personnelles, il y a cette question. Depuis 10 ans que je croise ce truc dans ma cave, parce qu'on a une antenne et un faisceau hertien sur le toit, de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Voilà, donc dans mes questionnements personnels, il y avait ça, parce qu'encore une fois, moi, de mon point de vue, les informations actuellement en ligne sur le site de l'Eurométropole me paraissent quand même relativement incomplètes. Il y a une obligation d'information des riverains qui peut être améliorée. Voilà. Donc, sur la base de ces préconisations, il va s'agir de s'assurer aussi de voir comment les choses vont pouvoir être améliorées et comment dans les mois qui viennent, comment dans les années qui viennent, l'information des riverains pourra être mieux assurée et comment on pourra mettre en œuvre l'ensemble des préconisations très riches qui ressortent du cahier de préconisations. Voilà. Peut-être. Il y en a 50 hein, quand même, des cahiers de préconisation.
Oui, on va les découvrir tout à l'heure avec Lionel Le Guay. Mais ça, je voudrais faire réagir Caroline Zorn sur vos propos. C'est vrai que cette information, quand on écoute ce que Pierre Schweitzer nous dit, attention, pas 3 mètres, pas 1 mètre, pas ici, pas là, c'est un sentiment un peu particulier quand même, hein, j'imagine. Hein. Comment est-ce qu'on peut imaginer cette amélioration dans le futur?
Alors, la première chose, c'est que je comprends complètement, puisque moi-même, pendant la campagne, j'ai cherché beaucoup d'informations sur le site de la ville sur la question du numérique et je n'avais pas trouvé. Voilà. Donc on ne découvre pas qu'il manque beaucoup d'informations, mais en revanche, cette concertation et la manière dont les préconisations sont formulées vont vraiment nous aider à apporter une information qui soit lisible sur des sujets techniques où il faut que l'information elle soit compréhensible, elle soit accessible. Voilà. Donc ça, c'est un élément fort. Et effectivement, dans les discussions, il y a toujours plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'information au public, le niveau d'information générale, et régulièrement, lorsqu'on discute, on tombe sur des cas assez étonnants ou de choses. Alors là, on va évidemment aller voir hein, ce qui se passe, parce qu'en tout cas en sous-sol, ça me paraît assez étrange. Donc et parfois c'est en discutant qu'on découvre des choses. Bien et sûr. Des cas atypiques. Donc il y a ces deux niveaux. Il y a la nécessité d'avoir pour les citoyennes et citoyens une information générale, grand public, mais suffisamment précise quand même, hein, qui soit utile, la possibilité d'aller chercher des compléments d'informations, enfin on y reviendra après, et il y a aussi la possibilité d'alerter, voilà, quand il y a vraiment des choses et qu'on a des experts très très pointus dans cette collectivité et leur savoir-faire, leur talent même, doit pouvoir être mis au service de la population par justement des circuits à définir ensemble.
En tout cas, tout reste encore à imaginer, à peut-être pas à inventer, mais en tout cas à faire continuer. Et c'est une sacrée tâche importante, et d'où l'importance de ces moments et de ces échanges qui permettent de faire émerger tous ces questionnements et surtout d'y apporter des réponses. Alors, à propos justement de réponses et de préconisations, ça tombe bien, Lionel Le Guay, vous allez nous dévoiler enfin, maintenant, parce qu'on attend depuis le début, on a laissé languir un peu, c'est pour laisser le spectateur, l'auditeur, nos participantes et participants, attendez, restez avec nous. Vous allez donc nous dévoiler les préconisations auxquelles sont arrivés les participantes et les participantes de ces ateliers. Lionel Le Guay.
Oui, donc il y a tout d'abord, je voulais réintroduire par exemple le cahier de préconisation. Par contre, ce qui en est sorti de ce cahier de préconisation, c'est vraiment un consensus fort sur le fait d'agir pour un numérique responsable. Ça a été l'unanimité vraiment de tous les participants. On ne veut pas interdire la 5G, on ne veut pas promouvoir la 5G, on veut avoir un usage vraiment responsable de notre activité et du numérique au quotidien. Trois thématiques se sont dégagées donc, de cette idée forte. Donc, tout d'abord, bien entendu, un numérique responsable face à des questions des ondes électromagnétiques, donc l'exposition aux ondes et la vigilance qu'on doit en avoir pour se protéger, pour savoir à quoi on est exposé. Un numérique responsable face à ses conséquences environnementales, la consommation d'énergie pour ces nouveaux réseaux, ces mises en place de nouvelles antennes, et la consommation énergétique également des smartphones ou des appareils connectés, et également les ressources premières pour construire ces mêmes objets. Et enfin, un numérique responsable qui pose la question des valeurs communes, comment nos choix collectifs peuvent être bénéfiques pour la société et pas être simplement subis par les dirigeants, par les opérateurs, par exemple, ou les constructeurs de matériel informatique. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a eu 12 objectifs qui ont été définis avec une hiérarchisation de ces 12 objectifs. Alors, je vais les lister un peu rapidement parce que je souhaite vraiment qu'on aille vraiment plus sur la concrétisation et les actions qu'on va mener derrière. Donc, en balayant rapidement, donc on voit que ça va d'une stimulation, d'une sensibilisation et d'une éducation aux valeurs du numérique, la valorisation d'une société numérique sobre. La connaissance, bien sûr, approfondir les connaissances, sensibiliser sur les usages du numérique sur la santé, bien sûr, c'était le cœur de beaucoup de nos discussions, et développer également, par exemple, des zones de quiétude numérique un peu coupées de l'exposition aux ondes.
Des zones franches.
Alors, on verra, je vous expliquerai après que ce n'est pas si simple que ça
non, c'est
à
pas
réaliser.
C'est
les objectifs.
Ouais, la théorie.
Voilà. L'idéal. Les autres objectifs, donc, par exemple, permettent l'accès au numérique pour tous, parce que le numérique existe de toute façon, on l'utilise au quotidien tous et toutes. Il faut aider les plus démunis à pouvoir y accéder également. Identifier les besoins du tissu économique, parce que c'est peut-être aussi des opportunités économiques pour du développement intelligent. Donner la priorité à la fibre optique, ça aussi c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Plutôt que d'utiliser les ondes, passons plutôt par la fibre optique à notre domicile ou sur notre lieu de travail. Mesurer bien sûr les expositions aux ondes, favoriser l'éco-conception donc de tous ces objets qui sont liés au numérique, et finalement l'objectif principal c'est limiter l'exposition aux ondes de chacun. Donc on va passer maintenant vraiment concrètement à ces objectifs.
C'est ça, et les idées qui en découlent. Ah, il y en a eu beaucoup.
Il y a eu une cinquantaine d'actions, d'idées d'action qui ont été menées. Alors, toutes ne sont pas réalisables en l'État. Certaines ne relèvent pas de l'Eurométropole, hein, par exemple. Ça peut être plutôt de l'État ou de l'Europe. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à tout niveau local. Par contre, on a retenu 15 actions prioritaires sur lesquelles on peut s'engager, sur lesquelles on va pouvoir réaliser certaines choses et assez concrètement et rapidement.
J'imagine que de temps en temps, il y a sûrement parfois des idées qu'on a envie de faire aboutir, mais qui ne sont pas partie de la compétence, donc il faut recadrer aussi ça.
Alors, certaines idées sont sous le coude, comme on dit, parce que on ne rejette en bloc aucune idée, aucune proposition, pourvu qu'elle ait fait l'objet quand même d'un certain consensus. Et notamment, il y a certaines propositions comme des créations de réseaux communs qui aujourd'hui, en l'état du droit, ne sont pas possibles. Mais pour être juriste, je le sais, le droit est une science qui évolue. Simplement, c'est pas l'Eurométropole qui va pouvoir faire changer les questions de télécommunications au niveau national. En revanche, la loi est l'expression de la souveraineté populaire. Donc, il suffirait que le vote permette de faire avancer certains sujets pour que des opportunités sur le territoire soient possibles. Voilà. Donc, on a rejeté en bloc aucune proposition. Là, ce sont des propositions sur lesquelles on peut aujourd'hui établir un calendrier et proposer aux gens des choses concrètes à plus ou moins long terme. Voilà, je repasse la parole à Lionel.
Oui, donc ces 15 actions prioritaires, l'ensemble des actions, vous pourrez les retrouver bien sûr dans le cahier de préconisation hein, avec les détails de chacune des actions. On va faire un focus sur ces 15 actions prioritaires. On les a classées avec court terme, moyen terme, long terme. Donc le court terme, c'est parfois même déjà en cours. Il y a des choses, des actions qui sont déjà menées au sein de l'Eurométropole. Moyen terme, on le comprend, quelques mois, quelques années pour le mettre en place. Et après, à long terme, alors c'est plus sur le long terme qu'à long terme. On verra sur les cas particuliers. Donc, par exemple, donc la première action, donc c'est promouvoir la fibre optique, voire favoriser la connexion au Wi-Fi quand on est à domicile. Donc ça, dans ce cadre-là, on voit à droite, il y a une petite étiquette en juin, donc c'est du court terme. On a reformulé la demande auprès d'Orange, hein, qui est responsable du déploiement de la fibre optique sur l'Eurométropole, de nous informer un peu plus et de nous donner plus d'informations sur leur déploiement et sur le nombre de prises raccordées. Et également d'avoir un calendrier plus précis sur la ville de Strasbourg, parce qu'on est un petit peu en aveugle là-dessus. C'est Orange qui vraiment possède vraiment toutes ces données.
Je crois que c'est un problème dont les citoyens et citoyennes se rendent bien compte, Caroline.
Oui, c'est un problème important. C'est un problème que... C'est un dossier où j'ai constaté que les choses n'avançaient pas suffisamment rapidement. Et dans la même période, eh bien, forcément, avec la crise sanitaire, c'était un facteur encore de ralentissement. Voilà. Donc aujourd'hui, pour être très clair, Strasbourg est moins bien fibré que les 32 communes de l'Eurométropole.
C'est ça, oui.
C'est un problème. Voilà. Donc, effectivement, nous avons des discussions au plus proche, des discussions serrées, parfois tendue, franche mais courtoise.
C'est voilà. Une jolie manière de le dire.
Voilà, pour que chaque situation soit débloquée le plus rapidement. Et c'est un dossier sur lequel, au Conseil de l'Eurométropole de juin encore, on aura l'occasion de revenir. Mais on ne se repose pas sur ce dossier, croyez-le bien.
Eh bien c'est voilà, une précision importante, Lionel.
Donc deuxième action qui est ressortie de ces échanges, c'est ce débat autour du numérique sobre et frugal. Qu'est-ce que ça veut dire? Vers quoi il faut aller? Donc ça c'est vraiment à long terme, sur le long terme, comment on peut changer nos habitudes au quotidien, tous en tant que particuliers et usagers des réseaux. Troisième action. Œuvrer pour qu'il y ait une politique de recyclage ambitieuse de tous ces terminaux qui vont être souvent jetés ou se débarrasser avant leur fin de vie réelle. Donc comment on fait pour récupérer ces pièces détachées? Comment on fait pour récupérer les matières recyclables et les réutiliser? Donc ça aussi, c'est un travail de longue haleine. Donc ça sera aussi sur le long terme. Action 4, alors là, c'est plus concret. On doit œuvrer pour que l'Eurométropole devienne un centre de mutualisation, que ce soit à la fois des antennes et des émetteurs de chaque opérateur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un même pylône, sur une même antenne, on peut mettre plusieurs opérateurs. Voilà, pour que.
On optimise.
Voilà, d'un point de vue paysager, ce soit déjà moins moche, parce que les antennes, c'est pas si bonne, c'est pas si
ça, c'est... ça.
Donc voilà, donc ça va rentrer en cours. Alors, on a mis octobre, parce qu'il y a une charte, donc je vais expliquer après, c'est un des points importants, qui va être mise en place à l'automne, donc on en reparlera. Cinquième action, un label seconde main, donc c'est pareil dans le sens du recyclage et du réusage. Donc valoriser la réparation, la valorisation des appareils, c'est un sujet qui est abordé lors d'une table ronde pendant cette semaine numérique responsable. Donc si vous voulez vous informer là-dessus, vous pouvez aller voir sur le site de l'Eurométropole.
Je profite de cette petite transition parce que nous avons une question qui nous a été posée par Lise, qui nous a posé la question sur le chat. Donc n'hésitez pas à nous poser également vos questions sur le chat. Je vais vous la donner, comme ça nous permet de transiter un petit peu et d'avoir un peu d'interaction avec nos auditeurs et nos participants. La ville peut-elle se mettre en concurrence avec la 5G en déployant la fibre et plus encore en créant son propre réseau en open source? Alors Caroline, je vous laisse en tant que spécialiste de ces sujets-là.
Alors, la fibre doit être déployée parce que, et c'est un retour fort de la conférence citoyenne d'ailleurs, parfois, on va avoir envie d'avoir plus de débit sur son téléphone portable parce que on n'est pas fibré correctement. Et que les gens ont besoin d'une connexion qui soit rapide. Les usages sont de plus en plus lourds, donc surtout professionnellement avec le télétravail, avec beaucoup de choses. Et toutes les applications ne sont pas encore éco-conçues, donc il y a beaucoup d'outils de travail qui nécessitent d'avoir une connexion très très efficace. Voilà. Et donc la priorité c'est la fibre. Si une fois qu'on a la fibre, on a besoin quand même d'une connexion sur son mobile qui soit rapide et qu'on n'a pas on a des besoins qui soient en dehors d'une connexion fibre, à ce moment-là, on peut réfléchir à d'autres choses. Mais aujourd'hui, les participants nous disaient, parfois, on peut être tenté de réfléchir à une connexion haut débit sur son téléphone parce que la fibre n'est pas au rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est une situation qu'on veut éviter au maximum. Il faut que ce soit un choix, et il faut pas que ce soit une contrainte. Maintenant, d'avoir un réseau concurrent, ça n'est pas permis aujourd'hui, hein, puisque en tout cas, on parle de 5G. La 5G, ce sont des fréquences, et des fréquences qui ont été achetées extrêmement chères par des opérateurs, des fréquences qui ont été vendues par l'État. Donc rien n'a été fait aujourd'hui pour que les collectivités puissent offrir des réseaux de la sorte qui soient concurrents à la 4G, à la 5G. Donc ça, ce n'est pas possible. En revanche, la question de la fibre doit être interrogée puisque nous sommes dans une zone de forte densité et aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Donc effectivement, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Il y a certains opérateurs qui seraient prêts à réfléchir, des petits opérateurs, des micros opérateurs qui seraient prêts à réfléchir, mais qui n'ont pas forcément des garanties suffisantes pour entrer sur des marchés aussi coûteux. Donc il y a des questions d'investissement. Donc la collectivité peut jouer son rôle là-dessus. Ça a été évoqué dans la conférence citoyenne. Donc on peut réfléchir à ça. On va continuer à réfléchir à ça sur la fibre et non pas sur les fréquences 4G ou 5G, puisque là les choses sont verrouillées.
Lise, je crois que là, vous avez une réponse parfaitement circonstanciée et on va dire un engagement même, en tout cas une réflexion et de sérieuses pistes. Lionel, je reviens vers vous pour la suite de ces préconisations.
Oui, donc on en a parlé déjà tout à l'heure, donc le numérique est partout, hein, effectivement, mais il ne faut pas laisser sur le bord de la route ceux qui ne savent pas l'utiliser ou ne l'utilisent mal. Donc ça, c'est aussi une action qui a été demandée, donc c'est créer des ateliers, des solutions d'accompagnement pour les personnes en difficulté à utiliser Internet, hein, bêtement, ou une adresse mail, parce que maintenant, moindre site où, sur lequel on va, il faut avoir une adresse mail. Donc ça, ce sont des choses qui existent déjà hein, à travers d'associations d'inclusion numérique. Et c'est un sujet également qui sera abordé lors de cette semaine numérique responsable. Donc également, je vous invite à aller voir si ce sujet vous intéresse. Septième action. Donc là, c'est le futur de la 5G, la 5G future. La 5G, elle est répartie en trois fréquences distinctes. Il y en a deux actuellement qui sont en service. La troisième arrivera dans 4, 5, 6 ans, on ne sait pas trop exactement en fonction de l'évolution des fréquences. Et donc, c'est cette connaissance sur cette nouvelle fréquence qui est très peu utilisée encore dans le monde et qui doit être approfondie avant qu'elle soit mise en service. Huitième action, le principe de limitation d'exposition aux ondes. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, éviter que les espaces, par exemple naturels, soient mis sous les ondes. Ça pose un problème de couverture et d'appel au secours, par exemple, s'il y a besoin. Donc ça, c'est à discuter avec les opérateurs.
Toutes ces préconisations que vous donnez s'inscrivent dans un planning ou dans un rétro-planning ou en tout cas dans un futur court terme, moyen terme et
exactement.
Est-ce que peut-être les recadrer au fur et à mesure
oui,
pour qu'on puisse bien les comprendre et surtout oui. les suivre dans le futur.
Très bien, pas de problème. Neuvième point, donc c'est l'utilisation du logiciel MitraREM. Donc c'est un logiciel technique qui est utilisé à l'Eurométropole pour simuler l'exposition aux ondes. Donc on simule l'ensemble de toutes les antennes disponibles sur la métropole. Alors la simulation est déjà faite, hein, dès à présent ça existe, et elle va être complétée par des capteurs de mesure. Donc là on va vraiment capter, ça sera plus de la simulation, ça sera vraiment des capteurs qui mesureront vraiment l'exposition aux ondes dans certaines parties. De l'instantané. Voilà, exactement. Donc ça, plutôt à horizon 2022, le temps de placer les capteurs et de récolter les données. Ensuite, donc point important pour l'Eurométropole, c'est le point 10. Donc ça, c'est en cours. Hein. Il y a une charte relative à la téléphonie mobile était déjà en cours depuis 2012, donc il y a la métropole et les opérateurs. Elle est en train d'être refondue justement pour intégrer certaines de ces actions. Donc dès à présent, on travaille là-dessus. On est en train de finaliser cette charte. Et on intégrera là-dedans à la fois les opérateurs, donc ça c'était déjà le cas. On va intégrer également les bailleurs sociaux, qui la plupart du temps hébergent des antennes sur les toits de leurs immeubles, et également les communes qui souhaiteront rejoindre cette charte, les communes de la métropole. On pourra étendre cette charte à l'ensemble des communes.
Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette charte ? C'est le contenu
Alors, synthétique, hein. Synthétiquement, donc il y a effectivement les engagements auprès des opérateurs de nous informer. Donc ça, c'est réglementaire. Ils sont obligés d'informer les communes leur implantation et sur leur programme de déploiement. Voilà. Il y aura également le fait qu'ils puissent moi j'ai un trou là, excusez-moi.
Sur la charte. Sinon, c'est la charte. J'ai d'autres questions hein, qui sont pas pièges cette fois-ci.
Je suis désolé.
Pas de problème. Vous avez parlé, donc on a vu l'ensemble de ces points, sur les préconisations, la charte, les différents. Le détail complet peut-être évidemment consultable sur le chat. Et vous avez encore une 5 points environ. Nous avons une quinzaine que nous avons sélectionné, donc nous allons pouvoir les poursuivre. Comme ça, ça, vous serez à l'aise.
Donc voilà, merci, c'est gentil. Suite à cette charte, donc il y a des instances hein, qui sont créées pour suivre cette charte avec les opérateurs, avec toutes les différentes parties que je vous ai indiquées. Et dans un souci de transparence, on va également intégrer des associations thématiques qui sont en relation avec les expositions aux ondes, et également une présence citoyenne. Donc ça va être fait avant la fin de l'année, afin de répondre à l'engagement de la charte. Donc un des points qui va être dans la charte.
Voilà. Le fameux, oui, il suffisait d'attendre, ça revient naturellement.
Voilà. Ensuite, il y a... donc 12e point, tout ce qui est action éducative, formation, prévention auprès des jeunes publics. Donc ça, c'est plutôt à moyen terme, dans les années qui viennent, sur le bon usage du numérique. Par exemple, comment gérer ses mails ? Est-ce qu'il faut conserver ses mails pendant un temps infini sur son serveur ? Est-ce qu'il faut les supprimer ? On est en plein dans les visioconférences en ce moment. Éteindre sa vidéo quand on ne parle pas, comme le micro. Voilà, tout ça, c'est des petites astuces qui permettent de faciliter les usages numériques et d'être un peu plus vertueux. Il y a aussi, on en revient encore à la même chose, hein, sur tout ce qui est éco-conception, mais à ce moment-là, des objets du numérique. Donc comment les opérateurs et les fabricants pourront construire des objets et garantir leur cycle de vie. Donc ça, c'est à long terme, hein, bien sûr, parce qu'il faut revoir tout le système de production.
Parce qu'avant, on avait des brosses à dents, elles n'étaient pas connectées. Hein, maintenant, même les brosses à dents sont connectées, hein, même le peigne, je veux dire. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on en a vraiment besoin, franchement ? Non, la réponse est dans la question. Non.
Alors ensuite, quelque chose qui concerne plus l'administration des collectivités, c'est garantir un accès traditionnel, on va dire, avec une présence physique, un guichet d'accueil, plutôt que de passer par le tout numérique. Et donc ça, c'est important, et donc ça, c'est un engagement aussi à très court terme, hein, puisque le centre administratif accueille encore beaucoup de public actuellement pour toutes les démarches administratives. Et enfin, 15e point, j'y viens, c'est la mise à disposition du public donc, de ces fameuses simulations MitraREM, donc le logiciel dont j'ai parlé tout à l'heure, complété par ces mesures de capteurs de mesures, donc d'ici 2022, et un partenariat qu'on est en train de constituer avec l'ANFR, qui est l'Agence nationale des fréquences, pour permettre justement ce déploiement de capteurs dans un cadre conventionnel, on va dire, et juridique. Et également, l'ANFR porte une application qui va être déployée très bientôt, qui s'appelle Open Bar, qui permettra à chacun de connaître grâce à son smartphone. Bon, on émet des ondes pour savoir si on est soumis à des ondes. Mais bon, voilà. Le principe est là.
À un moment, sinon, si on est obligé d'envoyer des fax,
voilà,
c'est compliqué.
Exactement. Et donc, c'est une application qui permettra à tout moment à chacun de savoir quel est le taux d'exposition aux ondes à un moment donné.
Bon, moi, je retiens Open Bar. Hein. Ça, c'est sympa. Hein. Pierre, vous me suivez là-dessus sur Open Bar, ça. Vous voulez réagir, peut-être ?
Oui, peut-être. Oui, juste pour indiquer peut-être une info, parce que... les échéances, la faisabilité et les échéances qu'on nous présente là, en fait, ont été construites, si je comprends bien, par les services après la conférence citoyenne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un focus sur 15 idées.
Tout à fait.
15 sur 50. Hein.
15 sur 50, hein,
précisément. Pour moi, la conférence, le résultat de la conférence, c'est vraiment les 50 idées dans leur ensemble. Il y a eu une forme de priorisation sur un, par le biais d'un vote qui n'était pas très clair. Enfin bon.
Vous les retrouvez toutes sur le site. Hein. Je précise que toutes les 50 préconisations sont sur le site.
Pour moi, les 50 donnent du sens à la conférence. Je trouve que le focus sur les 15 crée des restrictions qui posent question. Parce que voilà, pourquoi 15 et pas 25 On peut peut-être plus facilement avancer sur la 20e que sur la 10e. Voilà, donc pourquoi s'arrêter à 15 si on peut faire plus facilement la 20e que la 10e question. Et donc je souhaitais simplement, du point de vue de la participation citoyenne, signaler deux choses. Que d'une part, les échéances à court terme, à moyen terme et à long terme qui nous sont présentées ici, c'est le travail des services après la conférence. Hein, les citoyens n'ont pas été associés à cette démarche-là. Et je pense aussi important de souligner que la question clé qui va quand même être la finalisation de la charte et de la commission de suivi de la charte, ça va être l'outil principal qui va nous permettre d'avancer dans les mois et dans les années qui viennent. Je pense que Monsieur Leger nous parle des bailleurs sociaux. C'est vrai qu'ils sont impliqués dans la rédaction de la charte et dans la commission de suivi. Mais au centre-ville, où vous avez la plus grande densité d'antennes relais, vous avez très peu de bailleurs sociaux. Vous avez plus de la moitié des habitants qui sont locataires. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver les moyens d'associer les habitants directement à la révision de la charte et aux travaux de la commission pour peut-être mieux garantir. Dans l'ancienne charte, par exemple, vous le savez très bien, Monsieur Leger, il y a une obligation d'information des opérateurs des riverains. Je suis riverain d'une antenne. Dans le rayon des 100 mètres, je n'ai jamais eu d'information de quelque nature que ce soit. Et je pense que c'est le cas de tous les habitants du centre-ville. Donc, il faudrait vraiment trouver les moyens que les habitants, les citoyens de Strasbourg, au sens du pacte pour la démocratie à Strasbourg, puissent collaborer d'une façon ou d'une autre à la révision de la charte et à la conduite des travaux de la commission. Voilà ce que je voulais.
Merci Pierre Schweitzer. Juste pour dire que sur le chat, nous avons Lise qui nous repose une question et qui rebondit sur cette charte et qui nous pose la question suivante. Quelle valeur a cette charte ? Caroline, peut-être, comme ça vous faites double réponse.
Oui, alors à Pierre et à Lise. J'ai essayé d'être synthétique. Effectivement, on ne l'a pas rappelé et c'est bien de le dire, la priorisation a été faite suite à la restitution de mars, parce qu'il a fallu qu'on mette en regard les propositions, les recommandations des participantes et des participants avec ce qu'on va nous appeler la soutenabilité des actions. C'est-à-dire que j'apprends qu'il y a des services sur lesquels on peut compter et sur lesquels on compte énormément, mais qu'il faut être réaliste dans les actions à mettre en œuvre sur les années à venir. Voilà. Donc il y a effectivement, c'est pas du fait des participants à la conférence citoyenne, on a présenté là une priorisation avec un certain nombre d'actions dont on pense que au regard des moyens, des capacités à faire des services, c'est raisonnable, et au regard de l'état du droit, parce que je reviens sur la question tout à l'heure où il y a certaines propositions, ça va être compliqué dans le cadre juridique actuel. Néanmoins, vous avez raison, il faut aller voir l'ensemble des propositions parce que ça a du sens de les percevoir dans leur intégralité. Et au titre des propositions, eh bien, il y a celle qui est relative à la charte, renforcer la charte. Alors, on parle de la charte des opérateurs de téléphonie mobile, et c'est une charte qui existait déjà pour la ville de Strasbourg. Et moi, c'est en tant que vice-présidente de l'Eurométropole que je parle, j'ai voulu qu'elle soit étendue, et c'était une préconisation aussi des participants, sur tout le territoire. Donc, elle va être étendue dans son principe sur tout le territoire, mais aussi on va aller plus loin sur un certain nombre de points, et notamment travailler plus en proximité avec les opérateurs, travailler aussi avec plus de citoyennes et de citoyens, plus d'associations, voilà, de manière à ce qu'il y ait un dialogue qui soit plus nourri, en fait, que ce soit peut-être moins techno, mais politique au sens noble, c'est-à-dire de la vision de la chose publique, et faire du numérique, non pas un détail pour les technophiles, mais quelque chose qui a un levier, en fait, dans la société, bon, et qui a beaucoup d'impact. Donc, cette charte-là, elle est renforcée, on va pas revenir sur les propositions qui l'intègrent. Il faut aussi peut-être qu'on y reviendra après. Je sais plus le déroulement, mais en tout cas, c'est un outil qu'on renforce et qu'on étend géographiquement. Pour répondre à la personne qui posait la question de la valeur de la charte, on pourrait très bien s'en passer. C'est-à-dire que dans certaines métropoles françaises aujourd'hui, il n'y a pas de charte. Il n'y a pas de discussion avec les opérateurs. La mairie reçoit le dossier d'information qui va indiquer quelle est la situation, enfin quel est le lieu de l'emplacement de la future antenne. La mairie va vérifier qu'il n'y a pas de problème d'urbanisme. Et puis c'est la seule discussion qu'ils vont avoir avec les opérateurs. Il n'y aura pas de simulation des champs électromagnétiques. Il n'y aura pas de discussion sur l'apparence de l'antenne, parce qu'une antenne ça peut être quand même très vilain, alors que ça peut être un peu habillé sur certains bâtiments. Donc, on pourrait très bien s'en passer. Ce n'est pas dans la collectivité le choix qui est fait. On a hérité d'une charte qui était peut-être un peu trop techno et qui ne prenait pas assez en compte la population et les acteurs du territoire. On veut l'étendre, on veut la renforcer et la conférence citoyenne a permis de l'enrichir. Voilà, donc c'est... J'espère
c'est déjà un point essentiel.
Oui, j'espère avoir répondu à la question, mais en effet... Ce travail, c'est un travail d'ensemble. Et là, on présente une partie sur laquelle on peut vous présenter une prise et un retour un peu plus rapide, mais il faut aller voir l'ensemble.
Et ça rebondissait comme ça sur le point de Pierre. Je vous donne la parole dans quelques instants. Bernard.
J'ai bien insisté sur cette dimension de l'ensemble. Effectivement, dans le cahier, il est bien écrit que les 50, quand la hiérarchisation n'étouffe pas les 15, n'étouffe pas les 50. Hein. C'est dit à plusieurs endroits, mais c'est important que M. Schweitzer le souligne encore. Et je veux juste mettre un focus aussi. C'est vrai que on peut pas tout faire en même temps, mais en même temps, les participants aussi avaient là une vision réaliste et pragmatique. Par contre, ils ont envie de voir comment ça va vivre. Réalistement, en fonction du possible, mais en même temps qu'il n'y ait pas une espèce de cloche. Donc, c'est la vie, hein, dans le temps, de comment on concrétise. Tout le monde, je crois, fait preuve de sagesse et dit on peut pas, il n'y a pas d'iacatisme dans la démarche, mais quand même, on veut des signaux pour montrer que ça se concrétise. Hein. Je crois que c'était l'un des attendus forts du groupe. Hein. Je voulais souligner cela.
Pierre, vous voulez réagir tout de suite?
Oui.
Allez. Et après, je donne la parole à Maïssa.
Je pense qu'il y a quand même un point clé qui est peut-être insuffisamment mis en exergue. Et là, je reviens au pacte pour la démocratie à Strasbourg. Le premier droit du citoyen, c'est le droit à l'information. C'est le premier. S'il n'y a pas de droit à l'information absolument garanti en transparence, il n'y a pas de consultation possible si l'information n'est pas complète, par exemple. Il n'y a pas de concertation possible si on part sur des informations tordues, biaisées. Il n'y a pas de construction possible. Donc c'est au sommet de la pyramide la condition sine qua non de tout le reste. Et donc, quand j'ai appris, par exemple, après la conférence, que des antennes relais du centre-ville étaient dissimulées derrière des fausses cheminées, vous évoquiez, Caroline, l'intégration paysagère. C'est une question que j'ai découvert, moi, après la conférence. Pendant les 8 ateliers, à ma connaissance, je parle sur le contrôle de Bernard, à ma connaissance, alors qu'on avait des spécialistes de l'ANFR, alors qu'on avait des services, des élus, personne n'avait posé cette question. Vous avez au centre-ville des antennes relais qui sont cachées derrière de fausses cheminées. Et la charte vous dit qu'il faut garantir le droit à l'information des riverains. Donc si les riverains ne peuvent même pas constater de visu qu'ils habitent à 50 mètres d'une antenne, si le site internet de la ville est muet sur ce sujet, il y a quand même un problème d'information à l'origine qui est pas satisfaisant et qui fait qu'on peut pas aller plus loin dans la co-construction, dans la concertation, etc. J'ai découvert la même chose, par exemple, on parlait de la fibre optique, que cette obligation s'impose comme choix. Toute la conférence en était d'accord, mais il se trouve que les opérateurs échappent à cette obligation, que vous avez des antennes relais. Moi, j'ai toujours pensé que les antennes relais étaient reliées au réseau filaire, donc soit à la fibre optique, soit au réseau cuivre, pour faire transiter les informations. Non, c'est pas le cas. Et ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, qui, au moment de la conférence, n'a pas été dit de façon assez claire. Vous avez des opérateurs qui ne passent pas par le réseau filaire pour relier leurs antennes, mais qui utilisent ce qu'on appelle des faisceaux hertziens. Ce sont des canaux de très faible diamètre sur les toitures qui permettent de viser de point à point pour faire circuler des informations. Donc, si l'obligation de fibre optique s'impose comme il est souhaitable aux opérateurs, aux administrations, aux entreprises, aux citoyens, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aux opérateurs qui commencent par le faire eux-mêmes ? Voilà. Donc là, j'évoquais deux points d'information pour rappeler quand même que sans information parfaitement transparente et équitable, Il n'y a rien de solide qui peut se construire. Voilà.
Le message a été entendu, en tout cas, Caroline, vous et
oui, alors, déjà, j'ai envie de dire, vous voyez quand même la qualité des participants qu'on a.
Oui, hein,
on a quand même un petit niveau.
un grand niveau. Ah bah oui.
Non, et c'est ça, et ça doit inciter justement les personnes qui nous regardent à se dire qu'ils peuvent aller consulter les travaux, que c'est vraiment des travaux de qualité.
Oui, c'est des travaux de qualité, voilà. C'est vrai. Et ils sont tous comme Pierre, en tout cas.
Et alors, sur la question des cheminées, c'est effectivement pas quelque chose qu'on a abordé pendant la conférence, mais moi, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup quand on a justement des questions avec les opérateurs sur des antennes qui sont pas au centre-ville, parce que dès qu'ils sortent du centre-ville, il y a une petite tendance à laisser quand même des choses moches. Voilà. Alors qu'on aime bien poser la question, et c'est dans la charte, de faire, est-ce que vous allez faire vos meilleurs efforts pour habiller, parce qu'ils n'ont pas d'obligation, mais justement, nous, on est là pour ça, dire est-ce que vous allez faire vos meilleurs efforts pour habiller les choses. Mais c'est au centre-ville qu'il y en a le plus, c'est vrai, c'est pas en QPV comme je l'ai déjà entendu, c'est une idée qui est là et c'est pas vrai, c'est au centre-ville qu'il y en a le plus. Mais j'ai envie que vous sachiez où est l'antenne la plus proche de chez vous et que vous connaissiez quel est le champ électromagnétique qu'elle dégage, parce que vous allez pouvoir avoir une carte qui sera en open data et qui sera fiable et qui sera actualisée. Pas parce que vous la voyez, en fait. Voilà. Et c'est vrai que ça doit être là. Aujourd'hui, rien n'est satisfaisant. Ça, c'est évident. Parce que non seulement vous la voyez pas, mais en plus, vous n'avez pas encore la possibilité de regarder cette carte fiable, puisque le logiciel dont on dispose, c'est pas un logiciel qui avait été paramétré pour donner des informations au public facilement, accessible. Donc, ça, c'est le travail de fond. C'est travailler sur ce logiciel pour qu'on puisse produire une carte en open data, avec des informations hein, qui soient en open data, qui puissent donc être réutilisées, éventuellement, un jeu de données qui va pouvoir être réutilisé par les gens qui en ont envie pour le croiser avec d'autres informations, ça c'est une possibilité. Mais que cette carte elle soit enrichie avec les travaux qu'on va faire avec l'ANFR, puisque l'Agence nationale des fréquences, c'est ce qui était évoqué par Lionel tout à l'heure, veut travailler avec Strasbourg et avec Paris à justement accroître le nombre de relevés sur les antennes 5G de manière à ce qu'on ait vraiment une finesse dans les relevés des champs électromagnétiques, puisque là, le logiciel dont on parle aujourd'hui, ce sont des simulations. Il faut aller faire aussi beaucoup de relevés sur place. Et donc là, la NFR propose qu'on entre dans qu'on participe à être des métropoles qui vont augmenter les relevés pour qu'on ait des données encore plus fiables. Donc on est très content de ça. Donc on va bientôt, et c'est un peu l'idée du calendrier, être en mesure de proposer des données qui soient plus fiables et des données dont vous allez disposer. Je préfère, en tout cas, moi, ma manière de voir les choses, c'est de dire, je préfère avoir des données qui soient fiables et mises à jour régulièrement plutôt qu'une antenne sous les yeux qui va juste m'apporter une information sur sa présence. Mais c'est vrai que il y a du pour, il y a du contre. Ça, c'est pas un débat qu'on a eu en conférence citoyenne, mais c'est un débat qu'on n'arrêtera pas, puisque justement, on va continuer à en parler avec les usagers.
Au contraire, on continue, bien sûr. Et en propos d'usagers, justement, nous sommes tous des usagers, des usagères. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs usagères. Ça se dit? Non, pas trop. Oui, ça se dit. Allez, ça se dit aussi usagères. D'un certain âge, dirons-nous, nous avons la chance d'avoir un peu de fraîcheur et de jeunesse avec nous. Je ne dis pas que nous sommes pas jeunes et pas frais, mais Maïssa, bien fait quand même. Hein. Non, je ne suis pas besoin. est avec nous. Bon, rebonsoir, Maïssa. Maïssa, vous êtes une jeune collégienne, Fustel de Coulanges, vous êtes oui. En classe de 3e.
3e,
c'est bon, j'étais 3e, j'avais fait mes calculs. Vous faites partie du conseil des jeunes.
Oui.
Comment est-ce qu'à 15 ans, presque 15 ans, on atterrit, on va dans le conseil des jeunes? Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment vous êtes arrivée? Et surtout, qu'est-ce que vous y faites?
Alors, tout ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir améliorer la vie des jeunes de tous les jours et pouvoir leur faire accéder à des choses dont ils ne peuvent pas avoir accès en ce moment même.
Par exemple, vous avez des exemples?
Pouvoir accéder à un loisir, parce que parfois c'est un petit peu cher pour que tout le monde puisse y avoir accès. On n'a pas tous les moyens de faire le sport qu'on veut ou l'activité qu'on veut. Pouvoir donner accès à des vélos aux jeunes, pour pouvoir se déplacer, parce qu'on n'a pas non plus tous des vélos à portée de main. Et avoir un vélo neuf, ça coûte assez cher.
Alors ça, c'est pour la partie sportive. Il y a partie là, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, hein, en plus des sujets que vous abordez, c'est la 5G. Comment est-ce que vous vous êtes saisi au sein du Conseil des jeunes, vous-même et avec vos élèves, vos amis, vos camarades, je cherchais le mot, vos élèves, c'est un autre niveau. Comment est-ce que vous en êtes saisi de cette 5G? Qu'est-ce que c'est pour vous, ce débat sur la 5G? Ça vous parle aujourd'hui?
Personnellement, pour moi, la 5G, c'est quelque chose qui peut être assez dangereux, je pense, pour le bien-être de la population.
Ça, vous regardez jamais de vidéos de chat sur le téléphone?
Je veux dire que, de toute manière, les téléphones, on les utilise tous les jours, on en a tous besoin. Donc ça peut pas vraiment changer quelque chose. Mais le fait de créer la 5G et de le mettre en disposition à tout le monde, ça peut déjà avoir un taux de
dangerosité.
Dangerosité plus élevé.
Et avec vos camarades, vous en parlez, vous dites au sein du Conseil des jeunes, dit, ah non, la 5G, c'est pas. Comment vous êtes informé sur tout ça d'ailleurs? Est-ce que vous avez participé à des ateliers? On vous a expliqué comment ça fonctionnait? Vous êtes allé chercher vous-même?
On a quand même assez cherché nous-mêmes. Après, les informations, elles peuvent venir toutes seules.
Les informations peuvent venir toutes seules, c'est ça?
On peut très bien être informé, par exemple, en scrollant sur le net et tout ça. Donc, c'est des petites informations qui peuvent venir à nous... comment dire?
Vos recherches vous permettent d'avoir les informations nécessaires.
Oui.
Vous êtes inscrit au sein du Conseil des jeunes. Comment ça vous est venu, cette idée de...
Déjà, le Conseil des jeunes était venu au collège et nous a un peu présenté leur projet. Et ça m'avait beaucoup plu.
C'était quoi les projets qu'ils vous ont présentés?
Pouvoir du coup améliorer la vie des jeunes de tous les jours en utilisant plusieurs ressources. Et du coup, ça m'avait beaucoup plu.
Et donc là, vous vous êtes inscrit et vous avez eu un certain nombre d'ateliers également qui ont été faits à distance.
À distance et en présentiel.
À distance et en présentiel. Et vous étiez nombreux dans ces ateliers?
Oui. Quand même, on était peut-être une vingtaine dans chaque atelier, sachant qu'il y a au total 4 ateliers, il me semble.
Une belle mobilisation hein, quand même, de ce Conseil des jeunes et de ces jeunes pour ces sujets.
Je voudrais dire que je me suis fait disputer.
Dites-nous par qui, Caroline. Dites-nous.
Ils ont eu raison. Parce que dans la discussion, j'ai répercuté un échange qu'on avait eu auparavant avec les participantes et participants à la conférence citoyenne, avec cette idée que les jeunes sont de gros consommateurs de vidéos. Voilà.
On dit ça, on dit rien. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc, je vais peut-être vous repasser la parole justement parce que je me suis fait disputer et c'était pas volé, c'est vrai. C'est un...
Oui.
Elle va vous le dire.
Du coup, je suis pas d'accord sur ça puisqu'il y a des adultes qui consomment beaucoup plus que nous, qui restent plus sur le net que nous, sachant qu'avec les cours. Surtout que là, il y a les examens pour ceux qui sont en troisième et en terminale. Je ne pense pas qu'on ait le temps de rester sur Internet par rapport aux adultes qui parfois restent chez eux. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on consomme beaucoup plus qu'eux. Sachant que nous, si on est sur notre téléphone, c'est pas forcément pour aller sur Internet. Tout ce qui est jeu et tout ça, c'est pas forcément en ligne. Par rapport à nos parents qui vont plutôt rester, par exemple, sur tout ce qui est Facebook, Instagram, YouTube, alors que nous, en ce moment même, on n'a pas Facebook, par exemple. Enfin, tous les jeunes n'ont pas forcément Facebook.
Ah oui.
Il y a des jeunes qui n'ont pas les réseaux sociaux tout court.
Pierre, je vous en prie.
Maïssa, mais tu as dans ton environnement, parmi tes amis, peut-être tes cousins, tes frères et sœurs, je sais pas, tu as des gens qui ont un usage plus régulier d'applications comme TikTok, Snapchat, des choses comme ça. C'est peut-être toi tu l'utilises pas, mais est-ce que parmi tes amis, tout le monde fonctionne comme ça? Alors, ou c'est un choix pour...
Maïssa est une enfant modèle, hein, il faut le savoir.
Alors, moi, par exemple, je reste sur ce genre de réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Toutes les personnes que je fréquente ont à peu près aussi un téléphone et restent sur ces applications aussi, comme mes parents, mes cousins, mes amis aussi. Donc on est à peu près tous connectés. Après, je dis pas qu'il y a tout le monde qui est connecté. Je sais que j'ai une tante qui est vraiment pas connectée, qui a pas de télé, qui ne reste pas sur l'informatique et tout ça, qui limite absolument tout.
C'est parce qu'elle est plus âgée, elle aura au moins 40 ans. Donc.
Elle n'est pas vraiment plus âgée, c'est sauf que pour elle, du coup, les ondes, c'est pas bien. Enfin, ça,
c'est ça.
Voilà. Et l'informatique ne peut pas, tout ce qui est le net, n'apporte pas forcément quelque chose de bien aux habitants, à la population.
Oui, tu vois, donc si tu utilises TikTok, une petite vidéo TikTok sympa qu'on fait comme ça très facilement, en quantité de données, c'est l'équivalent d'une dizaine de romans, tu vois, quantité de données qui circulent.
Oui.
Tu vois, donc quand tu appuies sur le truc, tu as l'impression de faire un truc qui, sans trop de conséquences, tu dis toi-même, faut faire attention, la 5G, l'énergie, l'environnement et tout ça. Mais la réalité, c'est ça, tu vois, la 5G, oui. Ça sert aussi à faire véhiculer les. Parce que si tout le monde fait du TikTok du matin au soir, tu comprends.
Ouais.
Voilà.
Mes enfants viennent de me signaler qu'ils ont supprimé leur compte TikTok. Bravo. Hein. C'est belle réussite, hein, Maïssa. Merci, bravo. Moi, je n'avais pas réussi hein, jusque-là.
Donc, moi non plus.
Je suis en direct. Ah, bah, c'est formidable. Juste avant de passer au point suivant, Maïssa, les conclusions de ce Conseil des jeunes, de vos travaux, qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que vous en avez retenu tous ensemble?
Ce qu'on veut faire, c'est essayer. De faire obtenir la fibre à toutes les familles pour éviter qu'ils payent la 5G, qu'ils aient la 5G, sachant qu'il y a déjà la 4G qui est déjà amplement suffisant. Peut-être que la 5G est plus rapide, mais ça produit beaucoup plus d'ondes et c'est pas super bien. Donc personnellement, je pense que la 4G c'est amplement suffisant pour passer un coup de téléphone ou avoir internet dehors si vraiment on en a besoin.
Écoutez, Maïssa, merci beaucoup. Je crois qu'on va l'engager comme ambassadrice. Hein. Je pense pour aller batailler un peu avec Orange, ça marchera très bien.
L'art et la manière de dire les choses clairement.
Voilà, très clairement. Merci. Un grand merci et bravo pour votre aisance, Maïssa. Et puis, vous avez attendu sagement. Et puis, voilà, nous sommes conquis. Je pense qu'on peut le dire. Caroline.
Oui, par rapport aux jeunes, il y a un élément, c'est qu'ils s'interrogent, en fait, sur le numérique. Oui. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui téléphone avec soit en haut-parleur, soit avec des oreillettes, soit et qui ont conscience déjà de la nécessité de mettre à distance les appareils.
Oui.
Ça c'est déjà une chose. Donc dans les usages c'est déjà un peu différent. Et en tout cas, alors moi effectivement je parle d'un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître, mais en effet, lorsqu'on a eu ces appareils dans les mains. On n'avait pas conscience de ce que ça pouvait représenter comme danger. On n'avait pas conscience de ce que ça consommait non plus. En fait, on avait conscience de rien. C'est-à-dire oui. qu'il n'y avait pas d'éducation à l'usage de ces appareils. Et alors que vous faites partie d'une génération qui s'interroge et qui demande des informations. Et voilà, déjà,
exactement.
Là, ça donne de l'espoir.
Oui.
Maïssa, allez-y. Non. Oui.
Je pense que... Ça, j'ai rien à dire là.
Merci en tout cas à toutes les merci Caroline, merci Maïssa pour vos interventions. En complément de ce que nous évoquions sur, entre autres, le cahier de préconisation, il est important de parler de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui a également émis très récemment ses conclusions sur les impacts de la 5G sur la santé. Lionel.
Oui, donc cette agence nationale avait fait un rapport préliminaire il y a quelques années, il y a 2 ans à peu près. Et donc, en avril dernier, ils ont rendu leur rapport définitif. Alors, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport au rapport préliminaire. La chose qu'ils mettent en avant, c'est que voilà, c'est ce qui est écrit un petit peu, ce qui ressort un peu de ce slide, c'est qu'il n'y a pas de risque nouveau pour la santé au vu des données disponibles. Alors, il faut bien insister au vu des données disponibles. Donc la 5G fait aussi la différenciation entre ces 3 fréquences différentes de la 5G, hein, comme j'ai un peu abordé tout à l'heure. Donc les fréquences basses, qui sont déjà actuellement utilisées par la 3G, la 4G, voire la 2G même. Et donc en précisant qu'il n'y a pas de preuve d'effet sanitaire lié à des expositions et les ressources de champs électromagnétiques. Voilà, donc ça, c'est les études actuellement. Ensuite, il y a la nouvelle fréquence, la 3,5 GHz, pardon, qui est le cœur de cette nouvelle 5G, c'est les fréquences qui ont été acquises par les opérateurs en novembre dernier. Donc, l'agence l'ANSES, pareil, considère qu'il est peu probable que le déploiement de la 5G donne, dans cette bande de fréquences, constitue à l'heure actuelle des nouveaux risques pour la santé. ils font la relation entre des fréquences qui sont proches les unes des autres par rapport à ce qui existe déjà, et donc ils estiment que le danger n'est pas là. Toujours pareil, en l'état actuel des connaissances. Et ensuite, il y a cette fameuse bande des très hautes fréquences qui va arriver dans 4-5 ans et qui va apporter plus de débit, encore plus de débit, mais avec des antennes beaucoup plus rapprochées. Et là, l'ANSES estime que les niveaux d'exposition seront faibles, parce que c'est des fréquences plus hautes, donc il y a moins d'exposition. Mais toujours pareil, à l'heure actuelle, les données ne sont toujours pas suffisantes. Et effectivement, il y a très peu d'études sur ce niveau de fréquence. Donc voilà le compte-rendu de l'ANSES à l'heure actuelle.
Merci pour ce compte-rendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce que nous avons en main toutes les données? Finalement, qu'est-ce que ces risques nouveaux signifient? Aucun risque ou pas de risque du tout? Ça, ce sont des mesures sur lesquelles nous aurons encore possibilité de discuter. Avant de nous quitter, Pierre, c'est le... Avant de vous quitter.
Je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que le rapport de l'ANSES, en fait, est arrivé après la clôture de la conférence citoyenne.
Oui, je ne l'ai pas précisé.
Donc, il se trouve qu'il y a une information qui est arrivée pendant la conférence citoyenne que moi j'ai découvert aussi. C'est que les normes de l'OMS qui fixent les seuils limites et les seuils de recommandation, toutes ces normes sont basées uniquement sur l'effet thermique. Des ondes électromagnétiques. L'effet thermique, c'est celui de votre four micro-ondes ou celui que vous pouvez ressentir si vous maintenez longtemps un téléphone à l'oreille. Ça chauffe un peu. Oui. Mais tous les autres effets, je crois que scientifiquement, on en dénombre 7 ou 8. Alors effectivement, on n'est pas sûr qu'il y ait des effets sur la santé, mais au vu des données actuellement disponibles, je pense que c'est ça qu'il faut vraiment surligner sur l'avis de l'ANSES, au vu des données actuellement disponibles, il n'y a pas d'effet mesuré sur la santé. Bien qu'on sait, sur le fonctionnement d'une cellule, par exemple, sur les mécanismes d'osmose dans une cellule, les ondes électromagnétiques peuvent influencer, perturber le fonctionnement d'une cellule. Alors, est-ce que ça va jusqu'à avoir des incidences sur la santé? Moi, de ce que je comprends des conclusions de l'ANSES, qui n'étaient pas encore disponibles au moment de la conférence, c'est que c'est un peu quand même mystère et boule de gomme. Voilà comment j'interprète pour ma part l'avis de l'ANSES.
Il y a encore beaucoup, en tout cas, d'interrogations et de questionnements qui sont en cours. En tout cas, laissez-moi vous remercier, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, pour la hauteur de participation que vous nous avez donnée. Je crois, Caroline, vous l'avez dit tout à l'heure, la qualité des intervenants et des participants a été de rigueur. Donc, un grand merci à vous, Bernard Christen, un grand merci, Pierre Schweitzer, pour votre participation. Et bien évidemment, Maïssa Bienfait, qui est en train de faire une encartade incroyable sur les réseaux. Le chat est en train d'exploser. Maïssa, vous avez un fan club. Merci à vous. Nous vous laissons quitter le plateau et nous allons accueillir dans quelques instants pour continuer cette soirée, cette restitution, Guy Santner du Comité de Sciences, Santé et Société de Strasbourg, ainsi que Christine van der Liebe, citoyenne bénévole engagée dans le Conseil de développement CODEV. Avant de les recevoir et en attendant qu'ils arrivent et qu'ils nous rejoignent, Caroline, quel beau plateau, quelle belle première partie nous avons passée.
Oui, tout à fait. Alors, je profite de l'interlude pour donner quelques messages de service.
Interludé, vous avez...
en lien avec le réemploi. Donc, vous allez voir que c'est complètement concret, puisque dans les préconisations, il y avait la question de favoriser le réemploi du matériel informatique. Et pendant cette semaine du numérique responsable, donc du 7 au 12 juin, ont été mis en place par l'Eurométropole de Strasbourg, avec Envie et Humanis, 3 points de collecte de matériel informatique. Donc, nous vous invitons à venir déposer. Vous pouvez trouver l'adresse des points de collecte et tout ce que vous pouvez y déposer sur le site de la collectivité, donc strasbourg.eu. C'est dans les actualités, hein, la semaine du numérique responsable. Mais voilà, vous pouvez déjà retenir qu'au centre administratif, il y a un point de collecte, il y en a un autre au Shadok et il y en a un troisième aux archives. Et donc, vous pouvez déposer les téléphones, les tablettes, les GPS, les souris, les accessoires, les périphériques, tout ce qui est informatique, de manière à ce que ces objets retrouvent une autre vie et soient remis dans le circuit des boutiques solidaires de ses partenaires. Voilà.
Eh bien, merci pour cette information utile et objective sur tout cela. Nous avons Christine van der Liebe qui nous a rejoint. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Van der Liebe. Vous faites partie du Conseil de développement de l'Eurométropole de Strasbourg. Vous êtes une citoyenne également engagée. Bienvenue sur ce plateau. Et à ma droite, Guy Santner, membre du Conseil du comité en sciences, santé et société de Strasbourg, également appelé C4S. Vous allez tout nous raconter sur et tout nous expliquer sur ce C4S. C'est le petit mot comme ça quand on est habitué aux abréviations, mais évidemment vous allez tout nous dire sur ce que c'est et surtout quelle est votre fonction, Guy Sandner.
Oui. Alors oui. L'appellation C4S, je n'aime pas beaucoup non plus, je préfère l'appellation complète. Hein. C'est bien Sciences, Santé et Société de Strasbourg. Alors c'est un comité qui a été créé à la suite de l'aventure, la mésaventure qu'on a vécue, celle de la Covid, où il a été nécessaire de gérer des informations scientifiques. Donc un comité a été créé et il a été élargi à toutes les questions touchant aux sciences, à la santé et à la société. Sachant que ce comité a été mis en place donc sur l'initiative de la ville de Strasbourg, il est destiné à répondre à des questions scientifiques qui se posent lorsqu'on prend une décision. Donc l'initiative peut venir de la mairie qui pose une question, mais également, étant tout à fait autonome, il peut également se saisir de problèmes scientifiques et donner des avis, même en dehors d'une situation où il serait sollicité pour cela. Et une des questions qui était posée par la mairie de Strasbourg, c'était précisément ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir quel est l'impact du développement des communications par les technologies nouvelles, notamment cette fameuse 5G, sur la santé d'une part, et d'autre part sur certains aspects sociaux. Et ceci a abouti, je termine sur ce point, après vous posez des questions, ceci a abouti à la rédaction d'un document de 62 pages qui a été remis à la mairie, et il est assorti d'un certain nombre de notes techniques et d'annexes, et également nous avons joint sur des supports informatiques l'ensemble des documents qui ont servi à établir ce rapport. Donc les sources sont disponibles actuellement à la mairie. Évidemment, c'est assez difficile pour un non-spécialiste de s'y retrouver dans ces sources.
Alors nous comptons sur vous justement, Guy Sandner, pour nous spécialiser, si je puis le dire ainsi. En quoi consiste justement ce rapport? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Est-ce que vous pouvez nous en faire peut-être une récap?
Alors, c'est très très simple.
Vous avez dit que c'était compliqué.
Il y a deux points clés. Je vais lister cinq choses, mais il y a deux points clés surtout. C'est premièrement comprendre le déterminisme de la polémique qui s'est développée autour de cette question d'un 5G, parce que si on ne comprend pas la polémique, on ne s'en sortira pas. Et ensuite, l'autre point clé, c'est le dernier point sur l'illustration que vous avez, c'est-à-dire de proposer des recommandations. Bien sûr, une fois qu'on a compris le déterminisme, on va être tenté de statuer sur les fameux risques, pas seulement biologiques, il y a d'autres risques, il y a le risque du mésusage de ces technologies, donc c'est des risques sociaux. On a également fait quelque chose qui est tout à fait, qui a été estimé par des experts internationaux qui ont vu notre rapport comme quelque chose de totalement original, c'est-à-dire qu'on a pris le risque d'évaluer les coûts d'éventuels effets néfastes. Je reviendrai dans un instant, hein. Et ensuite, on a émis également un certain nombre de considérations d'ordre éthique que je vous donnerai un exemple dans un instant.
Très bien. Merci beaucoup, Guy Sandner. Peut-être pouvez-vous bien aller dans le vif de ce sujet, des sujets.
Alors, les causes de la polémique.
Voilà.
La première cause de la polémique, ce sont les limites de la preuve scientifique. Et là, je parle en tant qu'ex-scientifique, en tant qu'ex-chercheur. Lorsque l'on démontre quelque chose, on est très très fier évidemment de pouvoir démontrer quelque chose, mais on est toujours conscient du fait que dans la démonstration qu'on fait, il y a une part de risque, le risque de se tromper. Et j'ai donné comme exemple dans cette illustration le coût qu'a représenté la démonstration très récente de l'existence du boson de Higgs par les physiciens, qui a coûté 10 milliards d'euros pour réduire cette part de chance dans l'observation. C'est-à-dire que l'observation serait due au hasard. Alors, bien entendu, en biologie, on n'a pas ces moyens-là, on ne peut pas. Donc, on accepte un risque plus important. L'autre chose qui est très, très importante, c'est de garder présent à l'esprit que lorsque l'hypothèse de départ dans une expérience n'est pas confirmée, eh bien, on ne peut rien du tout faire du résultat. Or, dans la polémique, énormément de gens se saisissent de non-démonstration d'un effet pour dire que l'effet n'existe pas. Donc ça, c'est pour un scientifique, c'est inacceptable. C'est-à-dire un résultat négatif, c'est un résultat qui n'existe pas. La démonstration, en d'autres termes, n'est pas symétrique.
C'est ça.
Alors je le signale parce qu'il y a vraiment un gros problème autour de ça. Alors le deuxième point de la polémique, c'est qu'on se trompe très souvent, et je ne voudrais pas lancer de pointe aux journalistes, mais surtout dans le monde du journalisme, sur la définition du risque. Si on se fie aux grands spécialistes, et je cite là un Américain qui s'appelle Hubbard, le risque, ce n'est pas seulement une probabilité, on parle toujours de la probabilité d'un événement désavantageux. Ce n'est pas que ça, c'est aussi le coût des conséquences. Donc on établit la valeur, le niveau de risque en traitant une fonction qui est une fonction de la probabilité de survenue d'un événement, mais également du coût des conséquences. Alors pourquoi j'évoque ça ? J'évoque ça parce que nous ne pouvons pas agir en tant que citoyen sur la probabilité de survenue. Nous devons faire confiance aux spécialistes pour minimiser la probabilité de survenue d'un événement dangereux. Dans n'importe quelle technologie qu'on met en œuvre ou dans n'importe quel processus de traitement des gens dans une société. Par contre, là où ces réunions citoyens et également notre expertise intervient, c'est qu'on peut faire le maximum pour réduire les coûts des conséquences d'un éventuel pépin. Okay. J'avais mis sur cette illustration, pour faire prendre conscience de ce que je suis en train de dire, le fait que même des événements très improbables, ils ne sont jamais nuls. La probabilité n'est jamais nulle, et on a vu avec ce qui s'est passé à Fukushima, où un événement hautement improbable s'est produit quand même et a eu des conséquences extraordinaires. On avait donc là à considérer que cette centrale nucléaire représentait un risque très important. Non pas parce que la probabilité d'accident était élevée, elle était très très basse. Moi j'ai totalement confiance dans les gens qui conçoivent ces centrales, mais la situation dans laquelle elle était placée faisait courir un risque important parce que les conséquences de l'accident étaient importantes, c'est tout.
Je pense qu'on...
Alors, je voudrais juste mentionner deux choses supplémentaires.
Voilà, juste pour une notion de temps, si on peut arriver aux préconisations, mais je vous laisse avancer.
Oui, très rapidement. Il y a quelque chose aussi qu'on néglige, c'est qu'en psychologie cognitive, on a un défaut dans notre cerveau, c'est qu'on sous-estime le risque et on surestime notre chance. Hein. Dans l'illustration, vous voyez bien que si on surestime mais pas notre chance, on ne prendrait pas de billet de loto, hein, tout simplement. Alors, en ce qui concerne le dernier point de cette partie, de cette première partie, c'est la question d'éthique. Je vais la poser pour être rapide, de façon polémique. Accepterions-nous de nous faire vacciner contre la Covid si on n'avait pas vérifié l'innocuité du vaccin ? Non. Eh bien, pourtant, on va mettre en service des ondes dans le domaine des 26 gigahertz, c'était dans le domaine centimétrique, sans avoir la moindre vérification. Ça appelle simplement à ce qu'on fasse ces vérifications au préalable. Alors, c'est vraiment un point clé, un point d'ordre éthique, et c'est pour ça qu'en Suisse, nos collègues qui se germanophones se promènent avec des pancartes où il y a écrit dessus « Wir sind kein Versuchs, kein Ingen ». Là, il y a vraiment un problème d'éthique essentiel. Alors, si vous permettez, je vais donner rapidement les recommandations.
Merci beaucoup.
En sachant qu'elles ne sont pas très différentes de ce que les réunions citoyens ont mis en avant. Premièrement, j'ai déjà entendu tout à l'heure, c'est il faut informer. Je rajouterais simplement, il faut informer non seulement les citoyens, mais même les médecins qui ne sont pas toujours au courant des problèmes qui peuvent se poser, les clients du matériel connecté, et surtout le binôme parent-enfant. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut aider ceux qui sont désavantagés. Alors, il y a la question sociale derrière qui a déjà été abordée. Moi, j'ajouterais qu'il faut, en tant que médecin, je suis obligé de dire que quand quelqu'un se plaint de quelque chose, il faut le prendre en charge. Même si on a du mal à accepter l'idée que des gens soient hypersensibles aux ondes, eh bien, il faut les accueillir. Il faut mettre en place de quoi les accueillir. Le troisième point, je l'ai déjà évoqué, il faut absolument promouvoir la recherche. Alors sur la question suivante, ça va être un peu plus dur, c'est qu'il faut exiger aussi des choses. Il y a des choses qui ont déjà été évoquées, promouvoir plutôt le câblage, respecter les normes d'exposition, mais pas seulement exiger le respect, vérifier, et vérifier de façon indépendante. Ça a été évoqué déjà aussi, donc je vais y aller très vite. Il y a un point qui nous a retenu aussi, c'est le côté gourmand en énergie, la gabegie énergétique que représente le développement de la 5G. Et là, moi, on a fait une proposition dans notre rapport, c'est de faire participer les opérateurs au développement des énergies renouvelables, de façon simplement sur le plan financier, par exemple. Ensuite, une autre chose qui n'a pas été évoquée, on peut aussi, pour limiter certains risques, notamment les risques de dépendance à certaines applications, mettre dans les téléphones d'emblée des applications qui vont limiter l'utilisation de ces applications. Deuxième chose, on peut également mettre dans les portables, puisque les portables sont la cause d'un certain nombre de problèmes de santé, mettre des applications qui évitent que les gens collent leur portable contre la joue. Ça, c'est juste des exemples. Ensuite, comme on avait aussi un urbaniste dans notre groupe là, de réflexion sur la 5G dans le cadre du CADRES, on met aussi l'accent sur le respect de l'esthétique de zones à Strasbourg qui sont des zones classées. Donc je crains aussi que la mise en place des antennes n'ait pas seulement un préjudice sur le plan sanitaire direct, mais un préjudice esthétique à la ville. Dernier point, les interdictions. Moi, je propose, enfin, quand je dis moi, le groupe qu'on a
que vous représentez,
qu'on a réuni, propose qu'on interdise la publicité pour la 5G et voire pour un certain nombre d'applications. Pourquoi ? Parce que s'il y a des applications qui sont addictogènes, et il n'y a pas de raison qu'on interdise la publicité pour l'alcool, pour le tabac, qui sont deux éléments d'addiction, et qu'on n'interdise pas aussi la publicité pour des applications addictogènes de la téléphonie mobile. C'est pas seulement la 5G, hein, ça concerne déjà la 4G. Dernier point, nous suggérons aussi d'interdire l'installation d'antennes 5G à proximité des crèches, des maternités et des écoles. Pourquoi ? Parce que s'il y a un risque qui n'est pas connu encore, mais s'il y a un risque, ça sera surtout sur le cerveau en développement. Je parle en connaissance de cause, puisque mes recherches étaient précisément le développement du cerveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
C'est pas juste tout, c'est que c'est extrêmement important. Donc un grand merci, Guy Sander, je rappelle, membre du comité Sciences, Santé et Société de Strasbourg. Et vous faites honneur, évidemment, à ce C4S, même si vous n'aimez pas qu'on l'appelle comme ça. Je fais le raccourci. En tout cas, c'était particulièrement intéressant et instructif. Donc un grand merci pour ça et un grand merci à tout votre groupe d'avoir produit ces travaux et ces éléments. Je me rapproche et je me tourne maintenant vers Christine Vanderly. Vous êtes citoyenne bénévole au CODEV. Vous allez nous présenter le résultat de votre rapport, du rapport sur lequel l'ensemble de votre groupe, également au CODEV, a travaillé. Mais avant ça, d'abord, qu'est-ce que le CODEV ?
Alors, le CODEV, ça s'appelle Conseil de développement. Nous sommes on s'est tous engagés à faire œuvre de candidature pour faire partie de ce Conseil de développement au niveau de l'Eurométropole. Donc, on a la possibilité, nous sommes 92 aujourd'hui, nous représentons 33 communes. Oui, 33.
Vérification faite.
J'ai vérifié. 33 communes. Et nous sommes sollicités par les élus de l'Eurométropole pour donner des avis sur un certain nombre de thématiques qui nous sont posées. Et donc, dans l'ancien Conseil de développement, puisqu'il vient d'être renouvelé, nous avions la question. Qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, vous avez à nous faire remonter concernant la 5G ?
C'est un peu le cardo, le cœur de des citoyens.
Je suis désolée, mais j'ai un chat dans la gorge.
Ça doit être la 5G, ça.
Et oui, ça doit être la 5G. Et du coup, nous étions 11 mandatés par les membres du CODEV pour faire une recherche aussi à notre niveau, des choses qui nous sont accessibles. Et nous avons développé aussi un rapport qui est donc sur le site du CODEV et que tout le monde peut consulter. Merci.
Ma petite pause technique pour se réhydrater. Mm-hmm. Voilà. Du moment que ça ne fait pas d'interférence,
voilà.
Je ne voudrais pas qu'il y ait un électrochoc.
Et donc, parmi tout ce... Alors nous, ce qu'on a surtout vu dans notre groupe, ça a été surtout les aspects économiques. Puisque dans les aspects économiques, on s'est dit, bon, Est-ce qu'on peut aujourd'hui ne pas être pour la 5G ? Donc, pourquoi ? Parce que bah, y a les histoires d'emploi. Donc, on a fait quels étaient les avantages et les inconvénients au niveau de l'industrie, au niveau des transports, parce que ça augmenterait, ça permettrait de mieux faire circuler les voitures, la voiture autonome. Enfin, on a parlé de choses de ce type-là. On s'est dit aussi que ça servirait au niveau de l'agriculture pour optimiser un certain nombre de données. On a vu aussi ce que ça permettait d'améliorer au niveau des services. Et on a pensé aussi au niveau santé, mais pas de la même façon qu'au C4S, dont je fais partie aussi. Mais c'était plutôt sous l'angle télémédecine ou sous l'angle de pouvoir accéder plus facilement à ces données. Et on a vu aussi qu'est-ce que ça pouvait générer au niveau des personnes et des particuliers. Donc tous les détails sont dans notre rapport. On s'est posé beaucoup de questions sur les impacts que ça allait avoir. Et en premier, nous, on s'est beaucoup questionné sur l'impact environnemental. On a beaucoup vu l'impact carbone parce que ça allait avoir des conséquences sur l'empreinte carbone. Ça allait avoir une influence sur la consommation électrique, puisque nous avions vu qu'en Chine, les premières, puisque là-bas la 5G était déjà en marche, et on a vu l'augmentation importante de l'électricité. Et donc on s'est dit, mais est-ce que nous on est prêts à ça ? Est-ce qu'on a réfléchi à ça ? Si on a cette consommation électrique, il va falloir faire quoi ? Qu'on ait plus de centrales nucléaires, plus d'éoliennes ? Comment on va faire, quoi, par rapport à cette consommation électrique qui va aller en augmentant ? Et après, on s'est dit aussi, il y a ailleurs des problèmes de métaux lourds qui vont plus exister. On s'est posé la question de, pour extraire ces métaux dont on a besoin, quel va être l'impact sur la consommation en eau, sur la consommation, sur les conditions de travail des personnes qui retirent ces métaux dans des pays qui sont évidemment pas les nôtres, donc on les voit pas, ces personnes-là.
Vous avez fait véritablement un lien, un chemin totalement transverse
et vertical. Exactement, on a essayé d'en faire au mieux. On s'est aussi posé beaucoup de questions sur les risques sécuritaires, hein, parce qu'on s'est dit, et c'est arrivé juste au même moment, eh ben, les cyberattaques, dans la mesure où il va y avoir plus d'ondes, il risque bien d'y avoir plus d'éléments ou plus de risques au niveau de la sécurité informatique. On s'est dit aussi qu'est-ce qu'il allait advenir de nos données personnelles, puisque plus il va y avoir d'antennes et plus on va avoir de données personnelles qui vont être contactées, enfin, ou recueillies. Et enfin, on s'est posé la question, est-ce qu'on va vers un monde des algorithmes, puisqu'on va pouvoir utiliser toutes ces données qui sont recueillies, et donc du coup, on va dire un terme positif, influencer, si j'utilise le terme négatif, manipuler, pour pouvoir, à partir de toutes ces données qui vont être recueillies. Et enfin, on s'est aussi questionné sur le coût social que ça allait représenter, puisqu'on s'est dit, mais il y a beaucoup de gens qui vont devoir éventuellement changer leur téléphone. Si on fait ça, comment les gens vont se le payer ? Est-ce que tout le monde aura l'argent pour ? Parce que ça va coûter cher. Ou alors ils vont nous mettre de la fibre gratuite, du 5G gratuit, donc du coup on va augmenter la consommation, enfin comme ils peuvent bien le faire tous nos opérateurs. Et enfin, on s'est quand même encore questionné sur la fracture numérique et de dire, mais est-ce que tout le monde peut y arriver ? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces nouvelles technologies ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire et que ce soit expliqué à tous dans toutes les langues ? Et donc on s'est dit, il faut informer. Nos propositions.
Vous vous en êtes dit des choses.
Hein. Ah oui.
C'est impressionnant hein, quand même.
Oui.
Peut-être une réaction, Lionel, tout ce qui a été dit à l'aménagement
numérique. Je trouve justement que cette démarche transversale est très intéressante parce que ça touche à la fois, effectivement, moi j'ai beaucoup parlé des usages au quotidien, mais effectivement des mines de métaux rares et lourds en Chine ou en Amérique du Sud ou même en Afrique maintenant beaucoup.
C'est ça.
Voilà, et l'impact sur le travailleur qui est là-bas, qui retire et qui risque sa santé pour qu'on puisse avoir un écran dans la main. Quoi.
Oui, alors soit parce qu'ils vont recueillir les métaux lourds avec aussi une consommation en eau qui est très importante, surtout dans ces pays-là, et en même temps, tous les déchets vont chez eux. Et donc, ils vont encore une fois recycler sans avoir les qualités de sécurité que nous, on peut avoir. Et donc, on s'est dit, mais ça a un impact très impressionnant.
Et alors, vous vous êtes dit qu'il y a des propositions. Et vous en avez aussi
de nombreuses. Alors, nous avons des propositions. Et la première proposition, c'était donnez-nous la liberté de pouvoir choisir et de ne pas nous imposer la 5G. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la fibre soit soutenue, tout comme on ne soit pas obligé d'abandonner la 4G, mais que le citoyen puisse avoir le choix de ses modalités et pas qu'elles nous soient imposées. Deuxième proposition, qui s'est déjà retrouvée un peu chez tout le monde, mais pour nous, c'était former, informer, expliquer pour que les personnes puissent savoir comment utiliser au mieux ces appareils, comment on consommerait le moins d'électricité possible, comment est-ce que on peut ne pas se faire du mal au niveau de la santé dans ces appareils-là. Troisième proposition, nous voudrions que vous veilliez, quand je dis vous, je regarde l'Eurométropole, mais que vous veilliez à l'implantation des antennes, mais ça, Guy nous l'a déjà dit tout à l'heure. La quatrième proposition, c'était de dire, est-ce que vous pourriez coopérer avec les opérateurs pour avoir un cahier des charges qui soit adapté aux intérêts du plus grand nombre et pas seulement aux intérêts de l'opérateur? Et la cinquième proposition, parmi les cinq ou sept qu'on avait faites, il faudrait qu'il y ait vraiment une transparence sur les ondes, mais ça a déjà été dit, et que cette transparence doit être vraiment permise à tous les citoyens, mais de manière compréhensible. Voilà. Donc ça, c'est pour nous très important. Et alors, j'avais envie de vous dire aussi que moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, parce que j'ai pu faire partie des trois instances qui ont réfléchi. C'est-à-dire que j'étais à la fois dans les ateliers, j'étais à la fois au conseil de développement, et j'étais à la fois membre du conseil scientifique.
Vous êtes également transverse, voilà.
J'étais transverse, voilà.
Comme les propositions.
Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que les propositions se rejoignaient toutes. Par contre, j'ai deux questions qui sont restées ouvertes. La première, c'est de dire, dans un des ateliers, il était question des normes de soumission aux ondes qui ne seraient pas les mêmes dans les entreprises que dans l'espace public. Dans les entreprises, les normes ne sont pas les mêmes et donc il y a beaucoup plus de risques et donc il faudrait vérifier ce truc-là. Et ça, c'est un médecin du travail qui en a parlé. Et la deuxième chose à laquelle j'étais plus particulièrement sensible, c'est tous les amphis sont en Wi-Fi. Et je pense qu'on devrait proposer dans toutes les universités, dans toutes les écoles, qu'il y ait des accès à la fibre et pas au Wi-Fi, parce que ça soumet nos cerveaux à un certain nombre de choses que
Guy Sandner nous a
rapporté au nom de
C4S.
Et donc,
on n'a pas le droit d'appeler comme ça.
Je vous conseille de lire les rapports, même si je ne sais pas encore exactement où ils sont.
Ils sont sur la plateforme participer.strasbourg.eu et donc n'hésitez pas à les y retrouver. Christine Vanderlem, merci beaucoup déjà pour, encore une fois, toute la pléthorique information que vous nous avez donnée et puis tous ces détails circonstanciés et tous ces éléments avec lesquels vous avez travaillé sur le groupe. Je crois que Guy Sandner...
Je voudrais juste réagir sur cette question qui est effectivement très importante, non seulement dans les industries, mais également dans nos domiciles. Il y a effectivement un problème, mais celui-là, il ne relève pas ni... de la consultation citoyenne qui a été faite, ni de l'expertise d'un comité, c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui est en jeu, et c'est la responsabilité du chef de famille ou des gens qui habitent dans les appartements. Ça n'a rien à voir. Nous n'avons traité que la question de l'espace public. Et c'est une question qui se pose réellement parce qu'il y a une notion qui a été complètement laissée de côté, qui est la notion d'interopérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le même système, c'est-à-dire toutes les protocoles de communication 5G, ils le sont déjà dans ce que je vais dire, vont être communs entre les boxes qu'on va nous installer à terme l'espace public. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. L'homogénéisation, c'est une très bonne chose. Néanmoins, qu'est-ce qui va nous garantir que les box qui vont nous installer ne vont pas nous inonder d'ondes à des niveaux supérieurs à ce qui est fait dans l'espace public où c'est réglementé? Idem pour les entreprises. Mais ça, c'est une question de relation entre l'individu et le fournisseur de matériel et le président directeur général de l'entreprise et le fournisseur de matériel qui l'installe chez lui. Ça ne nous regarde pas. C'est évidemment le médecin du travail, éventuellement.
Cette question, comme d'autres et nombreuses autres questions, resteront peut-être encore en suspens. En tout cas, chose est sûre, vous les avez révélées, vous les avez partagées, vous les nous avez avertis, vous continuez de nous avertir. C'est particulièrement... vous avez fait un travail remarquable. Donc,
et les rapports existent et ils sont lisibles pour tous, je l'espère.
Ils le sont parce qu'ils sont sur la plateforme Participer Strasbourg. Ils vont l'être très bientôt. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à continuer. Je crois qu'on l'a bien compris, cette information, les informations, la communication sont absolument essentielles et soyez sûr que la ville et le MS feront le nécessaire pour que tous les rapports de toutes les commissions et de tous les groupes auxquels vous avez participé seront en ligne. Nous arrivons, Guy Sandner, Christine van der Lieb, Lionel Le Guay et bien évidemment Caroline Zorn, à la fin de cette restitution. Il y a encore, bien sûr, mais la parole est à vous, Caroline, pour rebondir, réagir et surtout aussi conclure.
Oui, alors je peux pas commenter là chaque point, même si j'en ai très envie, parce que vraiment c'est extrêmement riche tout ce qu'on a échangé ce soir et dans les mois précédents évidemment. Et je suis très heureuse qu'on dispose à Strasbourg d'un corpus sur la 5G, sur les usages du numérique, et que vraiment tout le monde est participé et joué le jeu. Donc on a, vous l'avez dit tout à l'heure, on a plusieurs formats. On a la restitution de la conférence citoyenne, on a la restitution du CK13, du CODEV, on a la participation en ligne des personnes. Et c'est pas fini, ça va continuer, et notamment avec cette semaine du numérique responsable qui va se dérouler toute la semaine, où là encore, il va y avoir des conférences qui vont continuer à alimenter nos réflexions, et on va continuer à avoir un corpus dense et voilà, et l'Eurométropole de Strasbourg est une terre de savoir, donc je suis contente qu'on ait une qualité pareille dans les débats. Et comme l'a dit Lionel, tout va être en ligne, tous les rapports, avec votre aimable autorisation et celle de tous les auteurs en ligne, évidemment. Je voulais rebondir sur la question de l'IoT, de la cybersécurité, parce qu'il faut avoir conscience, c'est vrai, il faut qu'on le rappelle, et ça va être l'objet, je pense, d'événements à venir. Il faut qu'on fasse de l'éducation populaire au numérique pour que la 5G ne soit pas prise juste comme un gadget et qu'on ait conscience que la 5G dans les téléphones, pour parler clairement, mais aussi dans tous ces petits objets connectés qui vont se parler sur ces fréquences 5G, eh bien, ça représente une vulnérabilité, c'est un risque. Donc, il y a la question de nos données personnelles. Et pour prendre un exemple que j'aime bien, parmi les personnes qui ont une montre connectée, qui sait où sont hébergées les données qui sont relevées par cette montre connectée? Voilà. Donc, ce sont des questions basiques, mais il faut qu'on se les pose. Et avec ces objets connectés, cette IoT, cet Internet des objets, il va falloir se les poser encore bien davantage. La question de l'intelligence artificielle aussi a été évoquée rapidement, parce que quand on parle de données de beaucoup de données collectées, on parle de big data. Quand on parle de big data, on parle de tous les traitements de données qu'on peut faire sur cette incroyable masse de données. Et c'est là qu'on a besoin d'intelligence artificielle pour aller les traiter beaucoup plus vite et parvenir à des résultats. Et donc, on va avoir deux événements cette semaine, un au Shadok et l'autre aux archives. Un par rue 89, un débat, et l'autre par le CEPI, l'Université de Strasbourg, sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Et voilà, donc c'était l'occasion de rebondir.
Bien évidemment, de donner le calendrier des festivités.
Voilà, tout à fait, voilà. Et alors, sur les recommandations à proprement parler, vraiment, j'y suis très sensible, et notamment parce que on le retrouve, tout ce que vous avez dit là ce soir, on le retrouve plus ou moins détaillé aussi, et pas aussi détaillé souvent dans la conférence citoyenne. Donc, il va falloir qu'on travaille ardemment à accueillir toutes les personnes, et notamment les électrosensibles. Et ça, c'est un vrai défi, parce que c'est un véritable défi. Et ça fait partie des sujets où il faut encore qu'on réfléchisse avec vous, à comment est-ce qu'on prend les choses, comment est-ce qu'on avance. Parce que les discussions avec les opérateurs qui sont qui ont envie de travailler avec nous, mais parfois aussi qui nous disent simplement, enfin bon, n'allez pas trop loin non plus, parce que en fait on fait un peu on fait un peu comme on veut si on veut. Et voilà, donc il faut réussir à discuter avec tout le monde et à tirer le meilleur parti aussi de leur savoir, de leur savoir-faire. Parce que dans les discussions sur les sites sensibles, sur les sites particuliers, et sur le fait que comme on a un doute aujourd'hui, même si l'ANSES ne s'attarde pas trop dessus, faut le dire, nous, dans l'Eurométropole de Strasbourg, on est très sensible à ça. Et sur la base des travaux qui ont été produits, on se dit, il y a une zone sur laquelle on peut prendre aucun risque. Et cette zone, c'est 100 mètres autour des établissements particuliers, des sites particuliers, crèches, écoles et hôpitaux. Bon. En discutant avec certains opérateurs, certains nous ont dit, on peut avoir, il y a certains modèles d'antennes qu'on peut allumer d'un côté mais pas de l'autre. Donc ça, c'est des choses, si on ne travaille pas avec eux, on ne le sait pas. Donc techniquement, parce qu'eux ont la connaissance du matériel qu'ils utilisent, on va pouvoir essayer de trouver des solutions. Mais en tout cas, ça, c'est un point ferme dans les échanges qu'on a et on restera ferme là-dessus. On ne peut pas allumer la 5G sur ces établissements sensibles actuellement parce que justement, cette question du risque, de l'approche du risque, c'est de la responsabilité des maires également de poser des limites à la prise de risque sanitaire. Bon. Alors il y a encore beaucoup de choses dont j'aurais voulu parler, mais il faut qu'on arrive à conclure, hein, bien sûr. Et j'ai envie quand même de conclure sur le peigne connecté que vous avez évoqué tout à l'heure. Parce que, pour terminer, et sur les objets connectés, peut-être que ce peigne connecté, il a un intérêt, en fait. Ça, c'est la question de la finalité, donc déjà s'interroger. Oui. Et si ce peigne connecté, eh bien, c'est une innovation qui a été déployée à Strasbourg par des chercheurs d'excellence.
Dans un hacking health camp.
Voilà, dans un hacking health camp, par exemple.
Tout à fait,
voilà,
tout à fait. J'y étais.
et que ça permet de détecter certaines maladies, pourquoi pas.
Tout à fait.
Faut y réfléchir. Mais en revanche, est-ce que ce peigne connecté, il doit être la fréquence utilisée doit être la 5G? Peut-être pas forcément. Il y a des basses fréquences qui vont nous permettre d'arriver à un résultat qui sera tout aussi satisfaisant, mais qui sera moins énergivore et qui sera plus sûr d'un point de vue sanitaire. Donc, cet exemple-là, merci de l'avoir donné, d'en avoir parlé tout à l'heure, parce que ça me permet de conclure en disant, voilà la manière dont nous on veut procéder. C'est réfléchir. S'interroger sur la proportionnalité, la sobriété, l'efficacité et ne pas avoir peur de dire stop quand vraiment ça dépasse l'entendement et stop aux gadgets, stop à la gabegie d'énergie. Mais en revanche, lorsque c'est pertinent, la collectivité sera là pour pousser les choses et c'est ça le numérique responsable qu'on veut dans l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà.
Merci beaucoup, Caroline Zorn, pour cette conclusion et cette, l'ensemble de ces préconisations et puis cette récapitulation parfaitement adéquate. Je vous invite bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre cette restitution, à la retrouver sur la plateforme en replay, en 105G bien évidemment, hein, vous l'avez compris, enfin sauf si c'est vraiment utile, nul point trop d'en faut abuser. Merci à tous les participants, Lionel Leguet, Christine van der Liebe, bien évidemment Guy Sandner et Caroline Zorn, et lors du premier plateau, Bernard Christen, Pierre Schweitzer et Maïssa Bienfait qui ont participé à cette restitution sur ces ateliers de la 5G. Merci aux participants, merci à toute l'équipe technique de Via Storia, merci à toute la coordination et bien sûr à la ville de Strasbourg et à l'Eurométropole de Strasbourg pour son accueil. Et on vous retrouve peut-être pour une prochaine conférence sur d'autres thématiques. Vous restez connectés, le tout sur la plateforme strasbourgparticiper.eu. Excellente soirée à toutes et à tous et merci.